si j'ai le temps.
À Boulevard 102.1.
On est de retour le midi avec l'émission On en jase de midi à 14h pour cette année 2026. Il est présentement midi 2 minutes. Pascal CV, toujours en forme?
Toujours en forme.
Excellent. Donc, c'est une semaine, Pascal CV, Jeff Fortin le matin, avec en remplacement de Marceau le matin. Max Larouche, évidemment, est avec nous. Après ça, c'est le point de Max. On en jase. Puis là, vous allez rentendre Max Larouche dans le retour pour deux jours parce qu'il remplace Audrey Pinchot qui est en vacances. Fait que bref, on travaille fort pour vous, puis il y a un individu qui travaille fort pour nous donner de la nouvelle, c'est Donald Trump.
Ah oui, lui, il n'a pas lâché le morceau là, pendant les fêtes parce que vous aviez quelques jours de congé. Chose assurée, nous autres, on a suivi ça, on n'avait pas le choix. On rentrait en onde, puis on avait cette nouvelle-là qui popait. Écoute, c'est le cas de le dire qu'il nous donne la broue dans le toupet, Donald Trump, en ce moment, parce que en plus de toutes les nouvelles, la façon d'analyser la chose avec le droit international, t'as tous les discours hein, sur les réseaux sociaux, les gens qui défendent, qui ne défendent pas, qui demandent plus d'aspects, qui n'en comprennent pas certains. Et la chicane, la fraction sociétale qui se crée aussi est super problématique
vraiment
là-dedans. Mais bon, on en jasera de fond en comble avec notre ami Victor Henriquez, qui va remplacer encore une fois cette semaine Antonine Iaccarini. Ça va être le caucus Henriquez.
Exactement.
Mais dans la nouvelle, les dernières choses à savoir, c'est que Maduro est arrivé au tribunal de New York. C'est qui? Ben, c'était le président vénézuélien. Je parle au passé parce que ben, pour l'instant, il est déchu. Hein? Nicolas Maduro, il est arrivé pour comparaître devant un tribunal de New York aujourd'hui. C'est deux jours après avoir été enlevé à Caracas pendant une opération militaire américaine qui a été chaudement applaudie par Donald Trump. On s'en prend à lui parce qu'on pense et qu'on dit, en fait, que c'est une problématique au niveau de la drogue, une problématique au niveau de la gestion de son peuple. Il est détenu depuis samedi soir à Brooklyn. C'est dans un centre de détention assez particulier, merci, en
délabré,
fait. Insalubre, gestion défaillante. On ne l'a pas envoyé là par hasard. C'est vraiment un choix, assurément, de l'envoyer dans un des grands centres de détention les plus gros des États-Unis. Nicolas Maduro, 63 ans, qui va répondre à 4 chefs d'accusation connus actuellement, principalement pour des faits de trafic de drogue, comme je vous disais. Il a été kidnappé avec son épouse, Cilia Flores, 69 ans, et elle va répondre de 3 chefs d'accusation aussi. Alors, des images qui ont été diffusées partout. Comparution qui est prévue à partir de midi. Donc, là, ça se passe probablement du côté des États-Unis.
Pascal, il y a des amateurs de ski qui vont être heureux parce qu'à compter de mercredi, on le fera moins 5. C'est moins 16 présentement, alternant soleil et nuages, et moins 8 pour demain. Le massif va reprendre des activités partielles.
Oui, bien, la grève n'est pas terminée, mais il y a certains skieurs qui vont pouvoir avoir accès aux pentes du massif de Charlevoix. On a une reprise partielle et contingentée, on dit, des opérations dès demain. Donc, réouverture partielle avec une journée de test. Là. C'est une approche graduelle. On s'adresse, par contre, uniquement à ceux qu'on considère comme étant des invités. C'est ceux qui ont un forfait ski-hébergement. Mm-hmm. C'est pour les membres Icon Pass et Mountain Collective, ainsi qu'il y a la clientèle du Club Med de Charlevoix, qui vont pouvoir accéder aux pistes. Les skieurs détenteurs d'un billet de saison vont pouvoir aussi accéder aux pentes de la station de ski alpin, mais à partir de mercredi, donc partiellement ouverte pour les prochaines semaines, du mardi au samedi.
Et 14h, le port de Québec va nous faire une petite mise à jour parce qu'il y a eu un effondrement ce matin.
Oui, une partie du quai. La partie du quai 25 au port de Québec qui s'est effondrée. C'est une portion d'environ 60 mètres. C'était le mur de couronnement du quai 25 qui était là. Et c'est une autre section d'environ 40 mètres qui présente encore un risque imminent de rupture selon l'organisation. Et ça a cédé, mais ça avait été construit en 1909, là, ça faisait plusieurs années. On me dit que c'est une situation majeure. On ajoute qu'il y a des employés qui ont évalué les dégâts dimanche. On avait demandé une subvention de plusieurs milliards de dollars du côté du gouvernement. Ça n'avait pas été accordé et malheureusement, le temps a fait son œuvre. Donc, c'est le quai qui est situé à l'extrémité de la pointe à Carcy. C'est celui qui donne sur le fleuve, sur l'embouchure de la rivière Saint-Charles. Et on va faire le point, comme tu dis, cet après-midi sur l'enquête qui est en cours à propos de l'effondrement.
C'est clair qu'il va y avoir de la pression politique de mi, selon moi, de la part de la PDG du Port de Québec, Olga Fehrman, qui a récupéré, devrais-je dire, le port dans cet état-là. Là.
Oui, écoute, là, ça, cette partie-là, le quai 25, qui n'était plus utilisé parce qu'on avait vu, heureusement, il n'y a personne qui a été blessé là-dedans,
ouais,
mais on avait vu qu'il fallait arrêter le transbordement de la marchandise en raison du piteux état. Donc, on s'est dit, ben non, on ferme ça. La l'affaire, c'est que si on veut devenir hyper important, comme le souhaite Mme Foreman, son équipe, comme on souhaite au niveau des paliers gouvernementaux, ben va falloir probablement aller de l'avant avec cette subvention de 2 milliards de dollars qui a été demandée au fédéral.
En plein son, on n'aura pas le choix, c'est certain. Il est avec nous lors de notre dernière semaine d'On en jase. Et est avec nous cette semaine, c'est Victor Henriquez dans le caucus.
Le caucus. Le caucus. 102-1. Voici Antonin Iaccarini.
Et là, comme je viens de le dire, c'est pas Antonin Iaccarini, mais Victor Henriquez qui sera avec nous pour cette semaine. Encore une fois, l'excellent Victor Henriquez, devrais-je. Comment ça va, mon ami? Merci d'être avec nous.
Ça va bien, toi. Merci. Merci pour l'invitation et bonne année à tous. Hein. Bonne année 2026. On souhaite à tous nos auditeurs beaucoup de santé, du bonheur et le succès. Mais la santé avant tout, parce que le reste, ça suit.
Ça suit. La paix aussi, on peut souhaiter la paix dans tous les spectres.
La paix dans le monde.
La paix dans le monde. OK, on va parler de paix dans le monde, vraiment? Non. Victor, c'est drôle parce que tantôt, hors d'onde, tu nous disais, « Hey, moi, là, je suis venu dans votre studio, vous apportez un petit cadeau, je suis reparti, j'ai décroché. » J'ai fait la même chose, moi, entre le 24 et samedi, j'ai décroché de l'actualité, j'ai dit, « Garde, la machine à off, on dort, on se repose, on profite des miens. » Mais quand samedi matin, j'ai dit, bon, faudrait que je m'en mette un peu dans l'actualité. Et oh, boba, il y avait une éclipse médiatique Trump.
Une chance que mes notifications n'avaient pas été éteintes dans mon break, moi non plus, parce que j'aurais manqué la nouvelle de l'année le 3 janvier. Hein? Ça n'a pas pris trop de temps à commencer l'année à Lyon. Alors, le 3 janvier, on s'est réveillé au matin avec cette nouvelle qui avait l'air quasiment d'une fausse nouvelle au début parce qu'on a l'impression que ça allait jamais arrivé ou que c'était jamais arrivé. Aujourd'hui, on a fait un peu la paix avec ça. Mais cette capture de Nicolas Maduro dans la nuit de vendredi à samedi à Caracas, au Venezuela, c'est un énorme changement. C'est un énorme changement dont on connaît très peu la portée à ce moment-ci. Pascal en parlait avant le début du caucus, Nicolas Maduro qui est devant le juge à New York. Les accusations qui seront portées contre lui sont des accusations majeures, il faut quand même le dire. Hein. On parle vraiment d'un président qu'on appelle un narco-président ou qui a participé activement à des cartels et au narcotrafic. Donc, il y a eu cette capture-là et depuis ce jour-là, ben, il y a des réactions partout. Des réactions positives, des réactions négatives. C'est hyper équilibré un peu partout dans le monde. Si on regarde aussi, moi j'ai la chance de parler espagnol, j'ai lu beaucoup de nouvelles en espagnol. Les Vénézuéliens à l'extérieur du Venezuela sont extrêmement heureux. Et il faut le dire, hein, parce que c'est 25 % de la population du Venezuela qui a quitté depuis le début de la dictature Chavez-Maduro. Imaginez, là, c'est 8 millions de Vénézuéliens qui habitent à l'étranger. Et ces gens-là attendaient ce jour-là depuis leur départ.
Oui, parce jour, que Victor, il y en a plusieurs qui disent « Je vais revenir au pays maintenant si la structure démocratique est respectée. »
Ben, tout à fait. Tu sais, puis c'est un peu l'ambition quand tu pars. Hein. Tu sais, moi, j'ai eu l'occasion de raconter mon histoire à quelques reprises. Moi, je suis parti du Chili très jeune dans une dictature. Alors, quand tu pars pas parce que tu as le goût de quitter ton pays ou parce que l'économie va pas bien. Tu pars parce que tu es en danger. Et ces gens-là sont souvent partis parce qu'ils étaient en danger. Nicolas Maduro, c'est quoi? C'est des prisonniers politiques, c'est l'assassinat de plusieurs opposants, c'est beaucoup de répression contre les gens qui n'étaient pas d'accord avec lui puis avec Hugo Chavez avant lui. Donc, il y a des gens qui ont quitté en danger de mort et ces gens-là sont partis en laissant un pied au Venezuela. Ils voulaient revoir leur famille, souvent les gens ont vieilli, les parents ont vieilli, et ils rêvent d'y retourner. Mais là, pour y retourner, il faut que les choses changent pour de vrai. Et ça, c'est la grande question. Qu'est-ce qui va vraiment changer? Alors, depuis samedi, on entend beaucoup de choses, mais le premier message que je voulais passer aujourd'hui en vous parlant, c'était de dire, il faut faire attention, parce que c'est hyper complexe comme situation. Puis on entend plein de choses, puis on nous parle beaucoup du droit international. Je pense qu'il faut toujours revenir à la base. Le droit international, là, excusez-moi l'expression, mais quand vous n'avez pas de liberté ou quand vous êtes sous la répression, là, ça vous importe très, très peu. Hein. Et il faut quand même rappeler une chose, puis c'est une collègue qui me disait ça ce matin, le droit international, c'est valable pour bien du monde, sauf pour les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il faut savoir que quand tu ne respectes pas le droit international, celui qui peut te taper sur les doigts, c'est les Nations Unies, c'est l'ONU, et c'est son Conseil de sécurité. Mais si tu es membre du Conseil de sécurité, tu as ce qu'on appelle un droit de veto. Donc tu te fais chicaner, mais il n'y a pas de conséquences. Alors les États-Unis, la Russie, la Chine et les autres membres permanents du Conseil de sécurité, ils ont l'habitude de ne pas respecter le droit international. Donc on parle beaucoup du respect du droit international aujourd'hui, mais la question à se poser, c'est est-ce que vraiment c'est respecté par tous? Puis la réponse, c'est non. C'est souvent pas respecté par les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Si jamais, parce que là, ça se coltaille un peu partout, partout dans le monde même, chacun des pays qui regardent l'actualité se coltaille entre eux au niveau de ce qui se passe avec Donald Trump et ce qui s'est passé avec Maduro. Mais si on se cache derrière les histoires de narcotrafiquants, derrière la drogue et tout ça, chose étant présente au Venezuela, est-ce qu'on va réussir à plaider cette cause-là au niveau de Donald Trump et d'être cru à travers le monde quand on voit aussi l'impact, les conversations et tout le pétrole du côté du Venezuela, qui était en fait une cible fortement alimentée dans les désirs de Donald Trump?
Ouais, tu mets le doigt sur le bobo, Pascal, parce que le narcotrafic, c'est une excuse. Puis la meilleure preuve que c'est une excuse en passant, c'est que dans les pardons que Donald Trump a donnés, Donald Trump a pardonné un ancien président du Honduras qui avait été condamné à 45 ans d'emprisonnement pour trafic de drogue. Quand il est arrivé comme président, il a dit « Non, non, ça, c'est un maudit bon gars, on va lui donner le pardon. » Donc, tu sais, c'est dur de donner le pardon à un maudit bon gars qui a fait du trafic de drogue, qui a été condamné par la justice américaine. Après ça, ramener Maduro en disant « Non, non, je le fais parce que je lutte contre le trafic de drogue. » On sait tous que la raison pour laquelle il est allé au Venezuela, c'est parce qu'au Venezuela, il y a beaucoup de pétrole. Là, quand on dit « beaucoup de pétrole » pour les gens qui nous écoutent, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de pétrole. On parle d'une réserve qui représente 18 % de tout le pétrole qu'il y a sur la planète. C'est la plus grande réserve inexploitée dans le monde. Et c'est une réserve qui est plus grande que celle de l'Arabie saoudite. Donc, le Venezuela devrait littéralement être un des pays les plus riches au monde dans l'exploitation de son pétrole. Ne l'est pas. L'a déjà été en passant. Dans les années 60, les années 50, le Venezuela, c'était le fleuron de l'Amérique latine. C'est un pays qui se développait énormément, c'est un pays qui n'avait pas de dette, qui fonctionnait extrêmement bien, construisait des écoles, des routes, des infrastructures, sans s'endetter parce qu'ils avaient beaucoup d'argent. Et les Vénézuéliens rêvent depuis longtemps de ce retour-là. Quand ils ont nationalisé le pétrole, ça s'est complexifié, puis on est arrivé là-dedans. Donc oui, c'est le pétrole qui fait que Donald Trump a débarqué là. Mais la réalité, c'est aussi que cette excuse-là, elle est vraie quand même. Le trafic de drogue au Venezuela, c'est une réalité. On a entendu parler du train d'Aragua, on a entendu parler de ces gangs, on a vu la réaction de la Colombie. Hein. Vous savez, les guérillas colombiennes, dans les derniers jours, ont dit « on est prêt à défendre le Venezuela ». Donc là, il y a des guérillas colombiennes reconnues pour être proches des cartels qui sont prêtes à sortir les armes pour défendre le Venezuela. Ils ne le font pas pour le bien des Vénézuéliens, ils le font eux aussi parce qu'ils veulent que leur marché fonctionne. Donc, tu sais, il y a beaucoup de business autour de ça, la business du pétrole, la business de la drogue. C'est pour ça que c'est hyper complexe, qu'il faut vraiment être prudent dans les commentaires. Puis vous avez vu comment Mark Carney a commenté? C'est pas pour rien qu'il est prudent, parce que justement, on sait qu'on marche sur des œufs dans ce dossier-là.
Oui, exactement. Tu parles de la Colombie, Victor. À quel point c'est la prochaine cible pour Donald Trump et les Américains? Est-ce que c'est la Colombie? Est-ce que c'est le Groenland? Est-ce que c'est Cuba? Ouais. Est-ce que c'est le Canada? On se pose ces questions-là à l'heure actuelle avec ce qui est arrivé en fin de semaine.
Honnêtement, je n'ai pas le bout de cristal, puis il y a plein de spécialistes de la politique internationale qui pourraient vous en dire plus que moi, mais il y a des choses qui sont évidentes, par exemple. Au niveau de la Colombie est la prochaine cible si on pense que le narcotrafic est la véritable cible de Donald Trump. En Colombie, il n'y a pas de pétrole, gang. Alors, ultimement, rentrer là, ce serait une épreuve de force dans le simple but de montrer que, de donner l'impression que son excuse du trafic de drogue est vraie. Alors oui, là-bas, il y a un président qui est un président de gauche, M. Potro, qui est un ancien guérillero, en passant. Hein. Donc, il a déjà pris les armes. Et d'ailleurs, tantôt, il a fait une déclaration en disant qu'il était prêt à les prendre à nouveau s'il faisait attaquer. Donc là, on est dans les grandes enflures verbales du côté de la Colombie, mais je ne pense pas que Trump ait l'intention d'attaquer là. Tu me parles de Cuba. Cuba, c'est un peu différent. Cuba, c'est un peu différent parce qu'on sait qu'au niveau du régime cubain, ben, Trump, comme tous les républicains, ont une haine profonde du régime cubain en place. Ça a toujours été pour les Américains une espèce d'illogique d'avoir un régime communiste à 90 km de leur frontière, hein, de la Floride. Mais en même temps, Trump a dit que Cuba allait tomber un peu tout seul. Parce qu'il faut quand même savoir que les Cubains respirent, notamment grâce au pétrole vénézuélien qui leur était vendu par le Venezuela avec la collaboration de la Chine. Donc, sans le pétrole du Venezuela, est-ce que Cuba va survivre longtemps? Honnêtement, le pays étouffe déjà avec l'embargo. Imaginez avec ça. Là, maintenant, il y a le Groenland. Il faut parler du Groenland parce que c'est la prochaine grande cible, mais on n'est pas dans la même situation. Dans le cas du Venezuela, attaquer le Venezuela puis aller chercher Maduro à l'intérieur, comme je vous dis, il n'y a pas grand monde qui pleure Maduro aujourd'hui. Mais le Danemark est un pays avec une tradition démocratique extrêmement forte. Et le Groenland est un territoire qui tient à son autonomie. Est-ce que Donald Trump passe des messages? Donald Trump dit « ça me prend le Groenland d'ici la fin janvier ». Est-ce que c'est une négociation commerciale? Est-ce que c'est une négociation militaire? C'est une grande question. Il y a déjà une base américaine au Groenland. Est-ce qu'on veut l'agrandir? On va négocier avec le Groenland, j'en suis convaincu. Mais là, tout le monde est un peu inquiet parce que si Trump débarque avec l'armée au Groenland, là, on vient de changer la géopolitique mondiale complètement.
Ah ben absolument, parce qu'on ne pourra pas se cacher derrière effectivement des envies de détruire le trafic de drogue et tout ça, comme nous, ça a pu servir à Donald Trump au niveau de la frontière avec notre sort du fentanyl et tout ça pour les tarifs. Là. On a vu que c'était pas ça du tout. Ben les États-Unis s'intéressent au Groenland, mais pour sa position, comme tu dis, géostratégique cruciale, hein, c'est dans l'Arctique puis c'est face à la Chine, à la Russie. Ces deux pays-là qui ont aussi une envie, un désir de conquérir l'économie, donc de devenir les puissances économiques du monde, entre autres pour calculer et contrôler le reste. C'est beaucoup plus stratégique militairement pour les États-Unis, peut-être en termes de certaines ressources aussi. Donald Trump serait capable d'aller aussi loin que ça quand toute l'Union européenne surveille ses mécanismes de défense à Trump, tu penses?
Donald Trump est capable de faire à peu près n'importe quoi. Je pense qu'il nous l'a prouvé. Est-ce que, par exemple, il faut arrêter de penser que ce gars-là est fou? Ce gars-là est foutrement intelligent, il sait ce qu'il fait. On n'est peut-être pas d'accord avec lui, mais il n'y a rien d'idiot dans ce qu'il fait en passant. Et il n'y a rien de nouveau aussi. Puis ça, c'est un élément hyper important parce qu'il y a eu un document dans les derniers jours, dans les dernières semaines, excusez-moi, qui est sorti aux États-Unis sur la sécurité intérieure. Et dans ce document-là, le gouvernement américain dit, pour assurer la sécurité des États-Unis, il faut qu'on contrôle les Amériques. Ça, en passant, c'est une vieille théorie qu'on appelle la doctrine Monroe. Maintenant, ils sont nommés la doctrine Donroe pour le lien entre Monroe et Donald. Et cette théorie-là, elle disait une chose. Dans les années 1800, elle disait aux Européens, arrêtez de venir chez nous en Amérique. On va vous laisser tranquille en Europe. Laissez-nous tranquille. L'Amérique, c'est à nous. Et c'était ça la prémisse de ce discours-là, c'était de dire, c'est notre zone d'influence, on va protéger notre zone d'influence, mais on ne laissera pas les Européens venir l'envahir. La doctrine Donroe, donc de Donald Trump, c'est de dire que la sécurité des États-Unis dépend du contrôle par les Américains des Amériques. Mais il dit quelque chose d'intéressant, c'est que dans le document, ils disent, pour le faire, il faudra avoir des gouvernements qui sont des alliés et qui sont stables pour éviter que les gens de ces pays-là, des pays d'Amérique, veuillent tous venir aux États-Unis d'une certaine façon. Donc, il veut assurer une certaine stabilité de gouvernements qui lui ressemblent. Alors, c'est pour ça qu'il est très heureux du président argentin, par exemple, qui est un de ses bons amis, du nouveau président du Chili, qui est un gars d'extrême droite, ou des présidents d'autres pays qui sont des pro-Trump. Ce qui le dérange avec le Groenland, c'est que le Groenland, c'est le dernier morceau de l'Europe en Amérique. Et ça revient justement avec cette doctrine Monroe de dire ben, l'Europe n'a rien à faire sur notre territoire. Alors, est-ce que Donald Trump va envahir le Groenland? Honnêtement, je serais extrêmement surpris. Comme je vous dis, il y a déjà une base militaire. Sortir l'armée de là pour faire une opération, ce serait très peu justifié. Le Conseil de sécurité risquerait même de se virer contre lui. Son droit de veto, il l'a, mais ultimement, il pourrait avoir des conséquences plus graves. Je ne suis pas convaincu qu'il va aller là. Mais il passe un message à l'Europe en disant, regardez, pour moi, c'est clair, ça nous appartient. Puis en Amérique, vous n'avez rien à y faire. Donc, trouvez une façon, mais ça va se faire. Et ça, c'est là où je pense que la pression va être forte sur le Danemark. Comment est-ce que ça va se faire? Est-ce que, par exemple, on va parler d'une vente du Groenland aux États-Unis? Mais pour ça, il faudrait que la population du Groenland soit d'accord. Ils sont un peu plus de 50 000, mais c'est quand même 50 000 personnes à convaincre.
Puis
c'est beaucoup.
Un an jour pour jour, l'an dernier, on était dans les mêmes discussions. Peut-être pas de la même manière, mais c'était c'est un non catégorique de la part des gens du Groenland, là, de l'autre bord, de dire non, Trump, il a bien beau arriver, ça sera pas à lui. Là.
Vous avez vu une chose. Il a arrêté de parler du 51e État, mais il n'a pas arrêté de parler du Groenland, puis il n'a pas arrêté de parler du canal du Panama. Puis honnêtement, le sud des Amériques l'inquiète moins parce que, comme je vous disais, les présidents en Argentine puis au Chili sont des amis. Donc, le passage au sud, ça va. Mais rappelez-vous pourquoi il a pris le canal du Panama puis il a passé un message. Parce qu'il n'aimait pas ça voir les Chinois rentrer en Amérique. Puis Donald Trump est en train de protéger sa zone d'influence. Puis ça, ce que ça va faire, c'est que les Russes vont faire pareil, les Chinois vont faire pareil. Alors, imaginez la négociation de l'Ukraine, de quoi elle a l'air après ce qui s'est passé en fin de semaine. Imaginez maintenant les Chinois puis Taïwan. Parce que Taïwan, c'est une île à côté, autonome de la Chine, et la Chine fait beaucoup de mouvements autour de cet endroit-là. Le monde est en train de changer. Est-ce que, par exemple, c'est si nouveau que ça? Honnêtement, c'est pas si nouveau que ça. Puis je pense qu'il faut quand même se rassurer dans le fait de dire c'est des choses qui ont déjà existé dans l'histoire de la planète, et c'est pas non plus un danger qui est imminent partout. Parce que Donald Trump a quand même des alliés qu'il veut garder.
Mais parlant de pas si nouveau, est-ce que justement ça va ouvrir la porte à la Russie pour tenter de reconquérir des territoires de l'ancienne URSS? Je pense notamment à la Moldavie.
Ben, je pense que oui, et puis je pense que là-dessus, il y a quelque chose d'un peu inévitable, hein, mais cette poussée des zones d'influence, la communauté européenne l'a quand même fait. Vous savez, l'Union européenne est quand même allée s'étendre dans des territoires qui n'appartenaient pas nécessairement à l'Europe historiquement. Tu sais, la Russie est allée chercher des territoires au sud, la Chine et Taïwan, c'est un grand enjeu, mais aussi la Corée du Nord et tout ça. Donc, c'est comme si ça fait longtemps qu'on pousse les frontières, hein. Dans tout ça, vous écoutez ce qui se passe en Afrique, par exemple, où les Chinois investissent de façon massive. En Amérique du Sud, il y a beaucoup d'investissements chinois. Ça aussi, ça fatigue Donald Trump. Tu sais, c'est tout ça, c'est toute cette volonté de pousser les frontières le plus possible de ce monde occidental, de ces pays industrialisés qui ont besoin de ressources pour nourrir leurs économies. Donc, tout ça est une question de business. On vient de voir un gros changement avec le Venezuela. Mais pour finir sur ce sujet-là, ça reste qu'il y a quand même des gens qui célèbrent dans la rue en ce moment, c'est les gens du Venezuela. C'est un peuple qui était beaucoup opprimé. Puis c'est un peuple qui espérait qu'un jour quelqu'un vienne sortir le dictateur de la place. Et ça, là-dessus, il y a un peuple de plusieurs millions d'habitants qui applaudit majoritairement Donald Trump en ce moment parce qu'ils ont sorti le méchant. Et ça, il ne faut pas l'oublier, ça lui fait des alliés et des gens qui disent, Mon Dieu, Donald, tu as réussi là où les autres ont échoué.
Non, c'est intéressant ce que tu amènes, Victor, sans l'ombre d'un doute. Tu as dit pour terminer sur ce sujet-là, donc je t'amène sur un autre sujet, la course au Parti libéral du Québec. Écoute, Pascal, souviens-toi, avant Noël, on ne parlait que de Pablo Rodriguez.
Maintenant, on ne peut plus parler de Pablo.
Et là, on ne peut plus parler de Pablo parce qu'il est du passé. Mais là, Victor, dis-moi, est-ce qu'on va avoir une course palpitante parce que ça s'ouvre officiellement lundi prochain, le 12 janvier, et les gens peuvent déposer leur candidature jusqu'au 13 février?
Non, parce qu'après 20 minutes à parler de géopolitique mondiale, il me semble que la course au PLQ, ça n'a pas l'air important
Ouais,
comme
mais c'est ça, ça fait. C'est comme si on parlait d'un petit village, là.
Exactement. Mais pour nous, c'est essentiel. Hein, on se dit, on va avoir une élection en 2026. Alors, il faut voir c'est qui les joueurs qui vont être sur les starting blocks. Moi, en temps des fêtes, j'ai eu quelques conversations. Tu sais, j'ai décroché, mais les amis continuent à appeler puis à parler politique. Hein.
Là, Tout le temps.
J'ai eu deux drôles d'appels pendant la période des fêtes qui m'ont parlé du fait que Guy Cormier n'avait pas encore dit qu'il n'était pas intéressé par la course.
C'était okay. pas juste une
là,
rumeur
mis
et
la
un
puce à
fantasme. C'était pas juste un fantasme.
Ben, j'avais parlé du fantasme Guy Cormier, hein, l'ancien président du Mouvement des Jardins, qui est sous contrat avec le Mouvement des Jardins jusqu'au mois de mars, qui avait déjà dit ouais, c'est trop tôt pour moi parce que jusqu'en mars, je suis sous contrat. Mais là, ça tombe bien, la course est finie le 14 mars. Donc là, je me suis mis à me poser la question, est-ce qu'on me dit, c'est qu'il y aurait une certaine réflexion du côté de Guy Cormier qui cherche à avoir un impact sur la société québécoise, qui est intéressée par la chose publique, mais au niveau familial, c'est pas sûr qu'ils veulent nécessairement s'embarquer là-dedans. Il faut savoir que sa femme est devenue conseillère d'arrondissement lors des dernières élections municipales à Lille-Bisère, où est-ce qu'il demeure. Alors, est-ce que les deux conjoints en politique, c'est une bonne idée? Est-ce que vraiment ça va lui tenter? C'est une bonne question. En ce moment, les indicatifs sont pas super positifs. Moi, je dis souvent, lorsqu'on parle de fantasmes à rumeurs, c'est quand même un peu intéressant. Donc, je ne mettrai pas ça de côté. J'ai hâte de voir s'il va dire non dans les prochains jours, prochaines semaines. Est-ce qu'on verra ce fameux message sur les réseaux sociaux en disant, je remercie les gens de m'avoir approché, mais j'ai décidé de passer mon tour. C'est celui auquel beaucoup s'attendent, mais il n'a pas encore été rédigé. Et ça donne espoir à des gens autour de Carl Blackburn ou, par exemple, de Pablo Rodriguez, qui espèrent trouver quelqu'un avec plus de notoriété que Charles Millard. Autre nom qui ressort, Yves Desjardins, qui est l'ancien PDG de Siemens Mobilité. Yves Desjardins Siciliano. Pas très connu aux yeux du grand public, mais il a un profil intéressant. C'est l'ancien PDG de Siemens Mobilité Canada. C'est un homme d'affaires assez bien reconnu, assez crédible. Il a également présidé Via Rail, par exemple. Alors, c'est un profil économique qui intéresse les libéraux. Et il y a des libéraux qui se demandent si ce ne serait pas un bon candidat. Il semblerait que Yves Desjardins est sur le téléphone. Et il y a Charles Millard, qui est le candidat qui avait fini deuxième, mais qui souffre d'un enjeu, c'est son manque de notoriété. Donc là, les libéraux vont devoir faire un choix. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils choisissent un candidat qui veut vraiment le faire comme Charles Millard, mais qui manque de notoriété, ou est-ce qu'ils essayent encore de recruter, de convaincre un Guy Cormier ou un Yves Desjardins Siciliano? C'est ce qu'on saura dans les prochains jours. La course débute officiellement lundi prochain, le 12 janvier, et les mises en candidature devront être faites avant le 13 février. Ça, c'est pour la course. Mais je ne sais pas si vous avez vu la nouvelle il y a quelques minutes. Il y a un responsable à l'éthique de cette course-là maintenant. Alors, les libéraux ont
Ouais, j'ai vu
décidé
le
de nommer une
Ils veulent se
personne.
pader, hein?
Ben, ils se sont podés, et ça, j'ai trouvé ça bien intéressant parce que je trouve que en termes de perception publique, moi, j'étais un gars de RP, puis je trouve ça intéressant, puis je trouve que c'est un bon mot de la part
oui,
de l'idée.
Oui, sauf si le responsable à l'éthique a l'éthique fluide. Là. On...
Ben, c'est ça, faut que tu choisisses quelqu'un de parfait. Puis ça, Pascal, t'as tellement raison là-dessus. Alors, c'est l'avocat Julien Morissette. Je ne le connais pas nécessairement, mais j'ai pas de commentaires négatifs à son sujet. Mais c'est sûr que son éthique à cet avocat-là va certainement être regardée par tous les journalistes qui font enquête à ce moment-ci. Et il faudra s'assurer qu'il n'ait de lien avec personne. Mais les libéraux sont conscients que s'il y a une course, il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de questionnements sur tout ce qu'ils vont faire dans cette course-là.
Victor, je te pose la question qui tue, je vais le dire comme ça. Est-ce qu'il y a vraiment un des trois candidats que tu nous as nommés qui peut faire un bon chef du camp du non?
Hey, t'as des bonnes questions pour commencer l'année. C'est dur. Regardez, moi, il y a deux choses. La première chose, c'est que je comprends toutes les théories sur le chef du camp du non, mais on se rappelle qu'en 1995, le chef du camp du non, c'est Daniel Johnson. Mais il n'y a personne qui va me dire que c'est Daniel Johnson qui a donné la victoire au camp du non. La réalité, c'est que le camp du non sera formé de gens venant un peu de partout. Et je vous donne un exemple. Est-ce que François-Philippe Champagne, ce qu'on appelle le lapin energizer de la politique fédérale, sera, lui, un acteur important du camp du non? Poser la question, c'est y répondre. Il y a des acteurs à Ottawa, par exemple, ou même à Québec, qui pourraient ressortir dans un éventuel référendum. Là, les libéraux doivent faire attention, justement, à ne pas anticiper trop les choses. Il faut qu'il se trouve quelqu'un capable de gagner la prochaine élection. Parce que lorsque le PQ est à 35 à 40, ça veut dire que le débat va revenir là où il y a toujours une bataille Parti québécois-libéraux. Les libéraux ne peuvent pas laisser la défense du fédéralisme entre les mains de la CAQ. Ce n'est pas naturel pour les libéraux de faire ça. Donc, je pense qu'ils doivent aller chercher quelqu'un qui doit leur donner une shot honnête, comme on dit. Il faut qu'ils soient capables d'avoir quelqu'un qui va être capable d'avoir un discours intéressant pour les Québécois. C'est quoi qui inquiète les Québécois? C'est la santé et c'est l'économie. Alors, ça leur prend quelqu'un qui garde de donner une réponse là-dessus. Est-ce que dans ces trois candidats-là, il y en a? Je reviens. Guy Cormier, pour moi, c'est le candidat naturel. Si Guy Cormier dit oui, tout le monde doit se tasser et laisser passer. Ils n'ont pas de temps à perdre puis ils doivent créer la campagne autour de lui. Maintenant, si Guy Cormier dit non, à ce moment-là, on a des gens qui ont des noms beaucoup moins connus. Puis là, je pense qu'une course serait intéressante pour faire connaître ces gens-là, parce que ça ferait quoi une course? Ça ferait qu'on parlerait de gens qui sont moins connus très souvent dans le prochain mois, ce qui serait une bonne nouvelle pour les deux candidats, quel que soit celui qui se fait élire.
Ça ferait du bien quand même à la politique provinciale avec tous les enjeux, avec la complexité de réélection ou d'élection dans les prochains mois, d'avoir quelque chose de solide au niveau de chacun des partis, au moins pour élever le débat, au moins pour parler des vrais enjeux et non de la famille, des paiements, des amendes, des contraventions ou encore du manque d'éthique des membres et des partis. Victor, ça c'était pour la politique provinciale. Au niveau du fédéral, j'aimerais juste faire un clin d'œil peut-être avant de te laisser quitter. Je sais, les gars, qu'on était sur la fin, là. Mais il y a quelque chose qui me titille depuis qu'on a parlé de Maduro, de la façon dont Carney s'est positionné là-dedans. Ça reste qu'au fédéral, il y a son ennemi politique, disons-le comme ça, et c'est M. Pierre Poilievre qui, lui aussi, a commenté la chose en disant félicitations pour l'arrestation de Maduro. Il va y avoir quelque chose d'intéressant aussi au niveau du fédéral dans cette analyse-là. Au niveau de la politique internationale de la part des deux qui s'affrontent sur le plan fédéral, ouais. Soit Mark Carney puis Pierre Poilievre aussi. C'est deux façons de voir les choses différentes.
C'est tellement vrai ce que tu dis. Puis ça nous rappelle quelque chose de quand même assez triste. Hein, c'est que le Canada n'est pas un joueur majeur au niveau international. Le Canada a plus à perdre de dénoncer Donald Trump qu'il a à gagner. Il a plus à perdre parce que lui, dans une négociation sur l'accord de libre-échange. Puis pour le Canada, cet accord-là, c'est vital. C'est vital pour son économie. Et le Canada doit s'assurer de rester dans la bonne zone d'influence, parce que sinon, on voit ce que Trump fait lorsqu'il ne pense pas être dans la bonne zone. Pierre Poilievre a très rapidement jumpé là-dessus, puis je ne vois pas juste Pierre Poilievre, hein, le monde conservateur, les influenceurs conservateurs sur les réseaux sociaux en ce moment sont très forts à applaudir Donald Trump. Et honnêtement, je ne suis pas en désaccord avec eux. Il faut aussi rappeler que Pierre Poilievre a une légitimité morale que Mark Carney n'a pas, puisque l'épouse de Pierre Poilievre est une réfugiée venant du Venezuela. Elle comprend la situation sous l'angle des exilés beaucoup mieux que bien des gens. Et moi, je pense que ça lui donne une légitimité morale à parler du sujet, puisque sa femme le connaît extrêmement bien. Mais la prudence de Mark Carney, elle est extrêmement symptomatique du fait que maintenant, on a compris qu'on ne peut pas marcher sur les pieds de Donald Trump sans avoir un prix à payer. Et ça, là-dessus, ça montre aussi la faiblesse du Canada par rapport à son voisin, où est-ce qu'on pourrait beau vouloir se la jouer grand seigneur, on est en ce moment devant un président qui est très imprévisible. Puis la question que je vous poserais, c'est, vous rappelez, je ne sais pas si vous vous rappelez quand Jean Chrétien avait dit aux Américains, non, nous n'irons pas avec vous en Irak en 2001 ou 2002, si
ouais,
je me trompe
je
pas.
Je me rappelle très bien.
Il avait frappé sur la table, il avait dit, non, le Canada ne vous appuiera pas, on ne croit pas aux armes de destruction massive. Puis il avait, dans le fond, renvoyé George Bush à faire ses devoirs. Je pense pas que le Canada ait aujourd'hui l'influence internationale nécessaire pour faire ça. Je pense que le Canada a une influence intéressante dans la zone Canada-Europe. Par exemple, on a vu la nomination de Chrystia Freeland comme conseillère de développement économique de l'Ukraine aujourd'hui.
Ouais.
Donc, je pense que là-dessus, on a un axe d'influence intéressant. Mais au niveau de l'axe américain, de notre influence au Conseil de sécurité, de notre influence à l'ONU ou de notre influence militaire, on a perdu énormément de points et on ne peut plus s'opposer à notre voisin comme on l'a déjà fait dans le temps.
Et Victor, je termine là-dessus. Qu'est-ce qui fait en sorte que Claudia Sheinbaum, la présidente mexicaine, elle, peut se permettre justement cette offensive-là contre Donald Trump?
Près de 200 millions d'habitants. La réalité aussi, c'est qu'à un moment donné, il va falloir qu'on parle de chiffres au Canada. Hein. On est un petit pays dans cet ensemble-là. Les États-Unis du Mexique, parce que c'est ça leur véritable nom, hein, les Estados Unidos de México. Les États-Unis du Mexique sont un très grand pays avec une très grande population et ils sont surtout le plus grand pays d'Amérique latine. Et comme plus grand pays d'Amérique latine, la présidente mexicaine a une légitimité plus grande aussi pour défendre l'Amérique latine. D'ailleurs, le Mexique a toujours été, aux yeux des latino-américains, cette espèce de rempart de défense. Hein. Là où la culture latino-américaine, elle évite et elle bloque la culture américaine, c'est au Mexique. Et ça a toujours été important pour les latino-américains. D'ailleurs, il y a beaucoup de mouvements entre le Sud, l'Amérique du Sud et le Mexique. Les artistes, la musique, tout ça se transpose beaucoup dans ces endroits-là. Et c'est une espèce de protection, le Mexique, pour la culture latino-américaine. Donc, le Mexique a une légitimité morale à aller beaucoup plus loin là-dessus. Et je pense même que Donald Trump comprend aussi que la position du Mexique est différente parce qu'ils sont impliqués culturellement parlant, alors que je pense que celle du Canada ne serait pas très comprise s'il décidait de s'y opposer. Mark Carney veut éviter une phrase... Le 51e étant.
Ouais.
T'as entièrement raison. Victor Henriquez, toujours un plaisir de te parler. On refait ça demain à midi sans faute.
À demain, gang.
Salut, Victor. Merci beaucoup. Victor Henriquez, que vous entendez sur nos ondes, vous l'avez entendu la dernière semaine avant les fêtes et vous l'entendez cette semaine dans le caucus en remplacement d'Antonine Iaccarini. Toujours très intéressant les conversations avec Victor.
J'ai envie d'ouvrir la porte au 88-971-1021 à ceux qui nous écoutent, Jeff, sur n'importe quelle question. N'importe quelle question dans le dossier, dans tout ce qui est géopolitique, conflits internationaux, etc. Parce que rares sont les fois où la porte est ouverte pour en discuter.
En effet.
On a de la politique provinciale, municipale, fédérale à gérer. On a nos enjeux au quotidien. On a la montée du panier d'épicerie. On a ci, on a ça. Mais là, c'est une des plus grandes portes ouvertes depuis longtemps. C'est dans notre cour parce que c'est notre voisin. C'est dans notre cour parce qu'on a été nommé. C'est dans notre cour, etc. Si vous avez n'importe quelle question, 88-971-1021, écrivez ça dans notre groupe de textos. Nous, on va faire des copier-coller, on va se faire une banque, puis on va s'assurer d'y répondre avec nos experts dans les prochains jours.
En effet, c'est une excellente initiative, Pascal CV. Je pense que ça va être très intéressant. Et d'ailleurs, Mark Carney qui a pris l'avion pour Paris aujourd'hui, donc va rencontrer là, le président français Emmanuel Macron. C'est dans une situation géopolitique très particulière. Va rencontrer aussi les alliés européens parce qu'on veut parler du plan de paix en Ukraine. Il en reste quoi de ce plan de paix-là avec ce qui s'est passé en fin de semaine? Donc, c'est plein de questions là, qui demeurent en suspens, sans l'ombre d'un doute. On fait une courte pause, on va changer d'un peu après. On va parler avec Alex Laramé, notre excellent journaliste au 99.5 Montréal. On va revenir sur le gros week-end de sport, la grosse période de sport du temps des fêtes. Équipe Canada Junior éliminée hier, le Canadien est en feu, les Steelers de Pittsburgh en série. Bref, on fait un gros survol de ceci après cette courte pause à l'émission On en jase sur Boulevard 102.1.
On jase! On jase!
On en jase, ton émission du midi sur Boulevard 102.1. Il est présentement midi 40 à la météo. Je le rappelle aujourd'hui, c'est la dernière journée froide. C'est présentement moins 17, moins 27, Pascal, avec le refroidissement éolien. C'est vrai, j'ai oublié de te compter ça en plus.
Dis-moi.
Ma chaufferette de char a sauté. J'ai plus de chaufferette dans mon char.
Comment ça se fait, ça?
J'ai appelé mon garage. Hey, je sais pas, c'est la deuxième fois que ça m'arrive. Ça m'est arrivé.
Trop utilisé, je comprends pas.
Ça m'est arrivé il y a une dizaine d'années avec mon Cobalt, en plein temps des fêtes aussi, 2 janvier, patao. Ça m'avait coûté 1 000$ en partant l'année.
Aïe, 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 pas de chauffage.
Là, pas de chauffage. Fait que je le porte.
Mais là, moi, j'ai jamais entendu quelqu'un que sa chaufferette éclate. Ouais. OK, pète, brise, peu importe. Toi, ça fait 2 fois que ça t'arrive.
Ouais, ça fait
2 fois.
T'es-tu
en train de te questionner sur ton utilisation?
Ben, c'est-tu, j'ai pas l'air à l'utiliser
à quelqu'un d'autre?
Différemment. 418-971-1021.
Tu fais-tu juste on-off?
Ben, écoute, j'utilise la chaufferette comme tout le monde. Ah oui, c'est ça.
J'ai jamais entendu
ça. Là, un matin, je suis allé partir ma voiture pratiquement une demi-heure avant de partir parce que là, c'est juste de l'air tiède qui sort et les vitres étaient givrées de l'intérieur.
Ouh, fait que,
à mesure, ça fait la job, mais, tu sais, comme dirait l'autre, je chauffe quand même avec ma tuque puis mes mitaines. À moins 27, le refroidissement éolien. Moins 8, possibilité d'averse de neige demain. Moins 5, neige intermittente pour mercredi. Et à plus long terme, là, si on regarde le week-end, 2 degrés avec de la pluie pour vendredi et samedi. Donc, peut-être que les sports hivernaux à l'extérieur vont être plus difficiles. J'ai nommé 418-971-101. Évidemment, vous pouvez nous écouter via notre application BLVD-102.1, App Store et Google Play Store. Hey, c'est vrai, j'ai un Alexa maintenant chez moi.
Tu lui commandes le BLVD-102.1.
Oui, donc je lui dis, écoutez BLVD-102.1. Et ça, c'est comique parce que Val, ma conjointe, au début, disait, écoutez Boulevard ou Boulevard 102.1. Puis là, ça donnait plein d'affaires différentes. Elle dit, voyons, c'est quoi, non? Ben, j'ai dit, voyons, Val, tu nous écoutes pas, moi, Pascal, on le répète toujours. Écoutez Boulevard BLVD-102.1. Et là, ça fonctionne très bien. La web radio sur blvd.fm et nos meilleurs moments. La chronique avec Victor Henriquez va s'y retrouver à la fin du show. Et twitch.tv/blvd.fm. Parce qu'on a parlé beaucoup de Donald Trump et du Venezuela. Hein? On s'enchaîne d'un peu avec du sport.
Puis il y en a eu du sport. Vous avez été vraiment gâtés.
Il y en a vraiment eu. On a été gâtés. On va en parler avec un gars que j'aime beaucoup, notre journaliste à Leclerc Communication dans la région de Montréal, Alex Laramé. Alex, bon début d'année 2026.
Ben ouais, bonne année aussi à vous autres. Content de repartir cette année-là sur les ondes de Boulevard.
Oh yeah, on va avoir bien du plaisir. Alex, un peu moins de plaisir hier et je te le fais écouter. C'est ce but qui a brisé les rêves du Canada.
Beignac s'amène en zone adverse, la passe devant. Et là, au dernier moment, la rondelle, on a sauvé la situation. Non, on dit que le but est bon. Je croyais que Brunick avait sauvé la situation, mais la rondelle a traversé la ligne rouge. Encore une fois, le scénario se répète comme la quart de finale des deux dernières années. Est-ce que les Tchèques, dans les derniers instants de la troisième, vont éliminer le Canada?
Pour une troisième année consécutive, Alex Laramé, la Tchéquie qui élimine le Canada au championnat mondial junior. On aurait parlé de ça au début des années 2000 ou dans les années 2010. On n'aurait pas cru à ça, mais c'est la nouvelle réalité. Le hockey international est de plus en plus féroce.
Non, effectivement, tu l'as dit, troisième année qu'on se fait éliminer par la Tchéquie, une équipe qu'on avait pourtant battue là, lors du premier match du tournoi, ça avait terminé 7-5, mais c'est sûr qu'il y avait eu de l'adversité. Là. La Tchéquie, depuis quelques années, on sent que c'est vraiment une équipe qui se tient, hein. C'est un programme visiblement qui est en évolution, et on voit plusieurs pays européens aussi, là, on l'a vu à travers le tournoi, notamment la Lettonie, hein, qui nous a donné quand même du fil à retordre. On les a seulement battus 2-1, donc on voit que le Canada... Dans les tournois internationaux, leur place est de plus en plus moins assurée qu'avant. On se souvient des belles années, justement, des années 2000. On a remporté le tournoi à 5 années de suite, mais c'est fini cette époque-là. Maintenant, c'est très, très, très partagé. On a vu les États-Unis aussi, hein, qui s'étaient présentés aux États-Unis le tournoi. Mm-hmm. Ils étaient à la maison. Ils s'attendaient probablement au moins à participer à l'or. Ils ont été éliminés même en quart de finale. Fait que non, c'est très serré dans ces tournois-là. Puis le Canada, ben, on peut plus prendre pour acquis qu'on va se rendre à la médaille d'or. Faut travailler. Puis je pense que c'est un peu ça qui a fait défaut avec l'édition de cette année. Je pense que les gars ont eu une dose trop élevée de confiance, puis ça joue contre eux au final, en demi-finale, défaite de 6-4 contre la Tchéquie.
Non, j'aime ce que tu dis, parce qu'on parlait justement de ça ce matin, moi et Max, et c'est ce qu'on expliquait à Pascal, c'est dans la façon de jouer, le Canada joue de façon un petit peu trop individualiste, de façon à impressionner la galerie, tandis que les Tchèques ont joué un match vraiment de hockey où on a contrôlé l'ensemble de la patinoire et les batailles le long de la rampe.
Non, effectivement, puis il y a plusieurs arguments là, qu'on a entendus dans les dernières semaines, notamment que c'est sûr que le Canada, nous, ça reste, les gars jouent dans des clubs différents, on joue dans trois ligues différentes, donc un gars qui joue, par exemple, dans la LHJMQ, ben n'a jamais pratiquement joué avec un gars qui joue dans la Ligue de l'Ouest, tandis que dans certains programmes, notamment aux États-Unis, c'est des gars qui sont développés ensemble, sont habitués de jouer ensemble. Dans les pays, justement, en Europe, on sent aussi qu'on a des programmes que les gars se connaissent plus. Puis je pense que ça joue à leur avantage, ça joue à notre désavantage. Puis même si on a plus de talent, parce qu'il faut dire, sur papier, l'équipe canadienne avait tout pour remporter l'or. Moi, je regardais au début du tournoi, j'étais convaincu qu'on allait gagner. Même l'équipe américaine, une fois qu'on passait la première ligne, on tombait dans des choix de troisième, de quatrième ronde. L'équipe Canada est remplie de choix de première ronde, des gars qui techniquement vont jouer dans la Ligue nationale. On avait même des joueurs qui ont joué dans la Ligue nationale cette année. Il y en a certains qui ont déçu. Zane Parekh, ça a très bien été. Il a été élu un des trois meilleurs joueurs d'équipe Canada. Mais des gars comme Michael Misa doivent se regarder dans le miroir après ce tournoi-là. Que jouer dans la Ligue nationale, t'es censé être un des meilleurs pointeurs. Puis si on exclut les trois points qu'il a fait contre le Danemark puis la Slovaquie, des parties qu'on a gagnées 9-1, 7-1 dans les autres parties, Michael Misa, c'est 2 points en 4 matchs, je veux dire. Quand tu joues dans la Ligue nationale puis tu reviens dans un tournoi junior, t'es censé dominer. Pratiquement faire 1 point par match, c'est pas 2 points par match. Ça n'a pas été le cas pour Michael Misa. Porter Marton aussi, capitaine de l'équipe canadienne, selon moi, a été très décevant.
Mais Alex, c'est ça, moi, que je comprenais pas quand les gars... Premièrement, je suis très néophyte dans le hockey, je suis néophyte dans tout ce climat-là, environnement-là. Je me disais, Colin, ils sont tellement forts, ils sont plus forts que la moyenne. Est-ce que c'est vraiment l'attitude qui a nuit? Est-ce que ça se peut, ça, que l'attitude, finalement, détermine à ce point-là l'altitude, donc, pour l'équipe qui était adverse dans ce cas-ci, je me dis que soit on perd de notre efficacité sur la glace, puis on est vraiment assis sur nos lauriers, puis il faut faire un devoir de reconnaissance là-dedans, ou encore, ben il s'est passé quelque chose d'autre, puis c'est juste la compétition qui a augmenté la force.
Ben selon moi, l'attitude, c'est un bon point qu'on peut noter, parce que ça a été rapporté qu'après la victoire de 2-1 contre la Lettonie, un pays qu'on aurait vraiment dû éclater, là, ça avait été très serré. À ce qui paraît, toute l'équipe s'est réunie. Ils ont fait une réunion d'équipe pour justement parler de ce qui allait pas, se regarder dans le blanc des yeux, dire les vérités. Puis après, on a succédé avec des belles performances. On a battu le Danemark, ça c'est facile, mais on a quand même battu la Finlande, un pays qu'on va devoir d'ailleurs réaffronter en demi-finale. Une belle victoire de 7-4. Mais c'est après, contre la Slovaquie, ça a été un match. Moi, j'ai regardé le match, je veux dire, c'était 5-0 en première période. Le match était déjà acquis. La deuxième, la troisième période, j'aurais pu pas l'écouter. Puis je pense le Canada a été pris un peu dans ce style de jeu-là. Après, à 5-0, c'est sûr que tu te relâches un peu. Là, tu joues pas nécessairement à 100%, même si les gars le diront pas. Mais je pense qu'on est rentré avec la Tchéquie avec cet esprit-là que ah ça va être facile. Puis ça nous a coûté parce que la Tchéquie, c'est une équipe qui travaille. Ça fait 2 années qu'ils nous avaient éliminés. Puis je pense que oui, l'attitude, ça a joué. On a vu Marton, c'est notre capitaine. C'était le premier match contre la Tchéquie, un match qu'on n'avait pas du tout dominé, mais qu'on avait quand même gagné. À la fin, il a donné une petite tape dans le dos d'un des joueurs. Ça avait mal passé. Il a presque été suspendu, finalement. Tout cet esprit-là, je pense que ça a joué entre les deux oreilles des joueurs canadiens. Puis au final, on arrive avec le résultat qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire on va se battre pour une médaille de bronze au lieu d'une médaille d'or.
En effet, on est tombé dans cette zone de confort. Si un joueur qui n'est pas dans une zone de confort et qui performe, c'est celui-là.
Voilà Hudson, il y a de l'espace. Le tir est remis! Lane Hudson sur la mise en jeu gagnée par Philippe Dano. Ma parole, le Canadien l'emporte et complète un voyage exceptionnel.
Ma parole, Pascal, le Canadien l'emporte. Pierre Roud est toujours extraordinaire dans sa description de match. Alex, voyage de 7 matchs à l'étranger. Le Canadien revient de ce voyage-là avec 10 points sur 14. C'est exceptionnel ce qui se passe. Vous devez capoter votre vie à Montréal.
Ah, ben c'est sûr que le Canadien fait vibrer la métropole. Mais tu l'as dit, hein, voyage de 7 matchs. Puis on sait qu'historiquement, le Canadien, lors du voyage du temps des fêtes, c'était toujours difficile. On sortait de là avec une victoire, deux victoires. C'est jamais vraiment un bon voyage pour les Canadiens. Mais l'année passée, ça s'était mieux passé. C'est là que Dobesch était arrivé et était parti en feu. Il avait blanchi les Panthers. C'était l'histoire d'amour avec Dobesch. Et là, encore une fois, quatre victoires, une défaite, deux défaites en prolongation. Lane Hutson, évidemment, a marqué un très beau but en prolongation. Mais durant le voyage, pour moi, c'est vraiment le deuxième trio qui s'est signalé, le nouveau trio Kapanen, Demidov, Slavkovski. Slavkovski, vraiment éclosion pour moi dans le dernier mois. Il devient de plus en plus le joueur qu'on imaginait lorsqu'on a appelé son nom premier choix au total quand même. Hein. Il est censé être le meilleur joueur de sa QV. On se souvient que Lane Hutson aussi a été repêché dans cette QV-là. Les deux sont un peu compétition pour ce rôle-là. Mais durant ces sept matchs, Slavkovski, 11 points. Demidov, 10 points. Kapanen, bon, 5 points. C'est sûr, c'est le moins bon des trois, on le sait. Mais quand même, ce trio-là a été, pour moi, le moteur là, du Canadien durant ce voyage-là. Et le premier trio n'a pas été mauvais. Je veux dire, Caulfield rapporte tout le temps ses buts. Suzuki fait ses points. Texier, on voit que ça commence à s'essouffler un peu sur le premier trio. Mais pour moi, en ce moment, quel est le meilleur trio du Canadien? Pour moi, c'est le trio de Kapanen, Demidov, Slavkovski qui porte le Canadien. Puis de voir des jeunes comme ça produire, je pense que ça donne de l'énergie à un peu tout le monde. L'arrivée de Dano aussi, avec la blessure de Jake Evans, ça arrive vraiment à point. Donc, je pense qu'il se prépare quelque chose de bon pour le Canadien. Là, on s'en va pour quatre matchs à domicile. On sait que dans les derniers temps, à domicile, ça a été un petit peu plus difficile. Fait que ça va être une bonne opportunité pour le Canadien, justement, de se replacer devant les partisans puis d'offrir un bon show.
Je suis très d'accord avec toi. T'es quelle news à l'heure actuelle? Tu viens d'aller chercher Philippe Dano, justement, pour combler un manque que tu avais. Et là, tu as parlé du premier trio. On a bien beau mettre Texier, on a bien beau mettre Bolduc. Ça ne fait pas. Il manque quelqu'un pour jouer avec Caulfield et Suzuki. Y es-tu trop tôt pour essayer le gros coup et aller chercher un gros ailier qui performerait sur ton premier trio?
Selon moi, oui, il est un peu trop tôt. Puis un problème qu'on va avoir aussi, c'est le cap salarial. Parce qu'en ce moment, on a quand même Kaden Goulet qui est sur la liste des blessés. On l'oublie, mais il y a Kirby Dach qui est sur la liste des blessés aussi. Mais Patrick Laine est encore un joueur du Canadien techniquement qui est aussi sur la liste des blessés.
À 8 millions.
Oui, exactement. Donc tous ces joueurs-là, s'ils reviennent, ben, leur salaire rentre dans la masse salariale.
Ouais.
Ken Hughes va vraiment devoir jongler. On sait qu'il est très bon. Là. Il nous a toujours surpris avec des échanges qu'on ne s'attendait pas. Mais il pourrait avoir une certaine difficulté de trouver surtout un attaquant de premier trio. Je pense que le Canadien va essayer de trouver une réponse à l'interne. C'est plate à dire, mais selon moi, Kirby Dach, quand il revient de blessure, il va avoir son audition sur le premier trio, surtout à l'aile.
Bien
on
vu.
L'a vu à travers les années. Ouais, vas-y, Jeff.
Non, j'ai bien, très bien vu. Je suis d'accord avec toi.
Ouais, non, tu sais, on l'a vu à travers les années. Il était plus performant à en tout cas, selon mon opinion, du côté de l'aile que du côté du centre. Puis de pouvoir jouer avec Suzuki, Caulfield, ça va y enlever de la pression. Selon moi, il va avoir son audition. Si on a une acquisition à faire pour un gars de premier trio, selon moi, ça va être vraiment plus proche de la date limite. Il y a toute une... c'est vraiment dans les lignes des règlements, mais il y a tout... Au niveau du cap salarial, c'est plus facile d'acquérir un joueur plus la saison est avancée parce que l'argent qu'on a à lui payer puis qui rentre sur la masse compte moins. En tout cas, c'est très, très, très technique, là, mais plus on avance à date limite, plus c'est facile de réaliser des échanges de ce côté-là. Donc, puis en ce moment, il faut se le dire, on est en bonne position, on gagne. Je pense pas qu'il y a de presse pour Kent Hughes de bouger. Je pense que Philippe Dano, c'était vraiment... le timing était bon. J'imagine... En tout cas, moi, j'ai un doute que le Canadien avait quand même certains doutes sur l'état de santé de Jake Evans. On le voyait venir un peu qu'on allait avoir besoin d'aide au centre. Et de toute manière, on avait besoin d'un centre gaucher. Avec le Canadien, en ce moment, nos centres, le problème, c'est qu'ils sont tous droitiers. Suzuki, droitier. Evans aussi, c'est un droitier. Kapanen, c'est un droitier. Donc, ça nous prenait des centres gauchers. On avait Joe Veleno, mais soyons honnêtes, Joe Veleno, sur le quatrième trio, c'est vraiment le mieux qu'on peut espérer de lui. Donc, on avait un besoin d'un centre gaucher. Dano, c'est une très belle acquisition. Pour le premier trio, je pense, honnêtement, qu'on va devoir trouver une solution à l'interne.
Alex, le monde est parfois cruel dans le sport. On vient d'en parler avec Équipe Canada Junior, mais certainement que Tyler Loop voudrait vivre un moment différent de celui-ci. Tyler Loop, le batteur des Ravens de Baltimore. Hey, c'est-tu cruel d'être un batteur, Pascal? T'as la victoire au bout du pied. Tu réussis le botter de 42 verges. on te monte ses épaules, puis on se dit, on s'en va en série avec toi. Et là, depuis hier soir, Tyler Loupe fait juste penser à justement la loupe que le ballon a pris vers la droite pour rater les poteaux. Les Steelers sont champions de la division Nord, Alex. C'est une grosse surprise, ça, dans la NFL.
Écoute, en toute transparence, là, je vais vous avouer mon biais. Je suis un fan des Ravens depuis des années. C'est mon club. Donc, oui, de faire rejouer ce moment-là, ça me fait mal, Jeff.
Fait que bref, toi, tu veux congédier Tyler Loop à matin et on en met un autre. Là. Tu t'ennuies de Jason Tucker.
Tu avais une job à faire. Mais ben ta oui. position, là, c'est toujours la même, dans presque toujours les mêmes circonstances. Ouais. Tu peux pas vraiment te faire déjouer là-dessus. Merde.
Non, c'est sûr que de kicker à côté, c'est crève-cœur, c'est ton travail. Mais après ça, on peut re-questionner plusieurs choses qui est arrivé dans ce match-là. Moi, je vous dis, je suis un fan des Ravens. Moi, j'ai pas compris. On a Aaron Rodgers de l'autre côté, 42 ans. On a été incapable de mettre de la pression sur Aaron Rodgers. Il peut plus bouger, il est plus mobile. On aurait pu avoir 7 sacs du corps si on avait été capable d'avoir des bonnes stratégies. Là, c'est peut-être une question de personnel aussi, mais selon moi, le match avait été échappé avant. Lamar, souvent, il y en a plusieurs qui questionnent Lamar Jackson dans les grands moments. On dit « choke » là en bon français.
Ouais, ouais.
Pour moi, Lamar a fait son travail durant cette game-là. Il a fait le retour de l'arrière, a réussi à placer son équipe dans un placement qui est, oui, 44 verges. Bon, c'est pas donné, mais c'est pas un placement non plus de 56 verges. C'était prenable pour Tyler Loop. Puis on sait que dans les dernières années, ben on avait Justin Tucker qui était notre kicker qui a été envoyé pour des histoires de massage. Là. Bref.
Ouais, Justin Tucker, Pascal, pour la petite histoire, c'est comme Deshaun Watson, le carrière des Browns de Cleveland, qui a raté toute la saison en raison d'une blessure. Les deux sont accusés par des massothérapeutes d'avoir demandé des extras, autrement dit.
Ouais, c'est ça. Puis là, ils ont décidé de le congédier, ce qui a amené Tyler Loop. Mais là, je voyais même sur Internet, évidemment, les blagues étaient infinies de ramener Justin Tucker, bref. Mais non, ça va être une journée difficile pour Tyler Loop qui va revoir ce moment-là. L'idée, c'est de prendre ça puis d'essayer de s'amener plus loin. Là, le coach aussi des Ravens, John Harbaugh, ça fait 18 ans qu'il est avec l'équipe, quand même, il faut le noter. Donc, même son poste, lui, pourrait être en danger. Puis on a vu plusieurs autres coachs être congédiés aujourd'hui. Là, donc, non, défaite crève-cœur pour les Ravens. Les Steelers s'en vont en série. Bravo pour eux, mais selon moi, contre Houston, je donne pas cher de leur peau. Là, ça va sortir assez vite du côté des Steelers.
En effet, on appelle ça le lundi noir dans la NFL, Pascal, parce qu'il y a beaucoup d'entraîneurs congédiés. Pete Carroll, l'entraîneur des Raiders de Las Vegas, a été congédié sans surprise avec un maigre dossier de 3 victoires et 14 revers. Et également Kevin Stefanski, l'entraîneur des Browns de Cleveland, qui s'est vu montrer la porte à 5 victoires et 12 revers. Mais dans le cas de Stefanski, on pourrait le voir avec les Giants de New York. C'est un génie offensif et somme toute, on voudrait peut-être le jumeler avec le jeune carrière Jackson Dart. Donc, ça va être à suivre. Alex Laramie, on s'en parle toute cette semaine pour se faire nos petites prédictions football des séries avec Pascal Sévé.
Ah, n'importe quand vous m'appelez, je réponds toujours oui.
Excellent, on va faire ça vendredi avec un immense plaisir. Merci Alex pour ta contribution à l'émission Nageurs à Boulevard.
Merci.
Ça fait plaisir, on se reparle bientôt.
Salut Alex, c'est Alex Laramie, journaliste à Leclerc Communication 99.5 Montréal. Vous l'entendez régulièrement dans le retour, c'est lui qui fait les chroniques sportives, les capsules sportives, devrais-je dire. Donc, excellent connaisseur de sport, gars qui va à plein de shows de musique, bref. Un passionné d'actualité, de monde culturel et de monde sportif. On les aime, ces personnes-là.
On c'est les fun. Prend en collaboration, c'est certain.
Exactement. On fait une courte pause, Pascal. Après ça, on parle avec Sylvain Duclos, enseignant et excellent communicateur sur les médias sociaux. On va parler de vouvoiement, mais on va parler aussi... Coudonc, on s'est rendu qu'il y a des tests d'admission en maternelle.
Mais c'est surtout de ça, moi, que j'ai envie de parler. Je sais que la nouvelle aujourd'hui, c'est le vouvoiement, Jeff. Pis,
on va passer vite sur le vouvoiement.
C'est fait. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Puis au pire, on se vouvoiera. Mais bon, ils appliqueront ça comme ils voudront, les
Exactement.
Enseignants. Mais les tests d'admission, là, moi, je me pose la question.
Ouais.
C'est-tu parce que maintenant, les enfants arrivent de tellement d'horizons différents, que ce soit des écoles Montessori, que ce soit des CPE, que ce soit des milieux familiaux en garderie, que ce soit, etc. Est-ce qu'ils arrivent avec tellement de niveaux différents où ils sont rendus qu'on n'est plus capable d'uniformiser la chose puis de faire en sorte que la maternelle, on apprenne de A à Z ceci sans leur faire perdre leur temps? C'est-tu ça qui se passe? C'est pour ça qu'on est rendu avec des tests d'admission?
Oui. Puis où notre petite école de quartier, on se faisait des amis? C'est ça qui m'inquiète là-dedans.
Notre école de bassin.
Oui, notre école de bassin. Tu sais, où tout le monde habite à proximité de chez vous, là.
Oui.
Puis après ça, là, tu dis à ta mère, hey, tu viendrais-tu me reconduire chez Marc-André?
Le petit parcours d'autobus.
C'est ça. Mm-hmm. Et où cette école de bassin-là, qui, on se le cachera pas, dans mon enfance, me fait énormément de bien. J'ai joué avec 8 de mes chums d'enfance au hockey bottine samedi soir.
Ils sont restés depuis l'école
primaire. Ils étaient là. On marchait ensemble pour aller à l'école. On avait 7 ans. Bien, à 46 ans, il était encore là. Donc, c'est ce qu'on va parler avec Sylvain Duclos, spécialiste en éducation. Immédiatement après cette courte pause à l'émission On en jase sur Boulevard 102. Présentement 13h04, c'est à l'antenne de Boulevard 101, c'est l'émission On en jase. Va suivre le retour de Gravel avec Denis Véro et Max Larouche en remplacement d'Audrey Pinchot. Pour les deux prochains jours et demain matin, bien c'est moi avec Pascal CV et Max Larouche qui va reprendre le collier en l'absence d'Yannick Marceau qui sera de retour le 12 janvier. Pascal, on en parlait avant la pause. Moi, je m'ennuie de mon école de quartier. M'ennuie de l'école de quartier parce que c'est là qu'on se faisait des amis. Mm. C'était pas compliqué. Nos parents nous inscrivaient. On s'en allait à l'école. On était avec nos voisins. Puis on s'amusait autant à l'école qu'à la fin de semaine. On avait du monde à appeler, on allait jouer dehors, on faisait des forts dans la neige. Puis là, je te raconte mon histoire, c'est que je me suis rendu compte, depuis que je vis dans la même maison avec Val, que ses enfants, en raison de programmes particuliers dans leur école primaire, sont pas nécessairement à leur école de bassin. Et ça fait en sorte que la fin de semaine, ils s'en cherchent eux autres des amis.
Ils peuvent plus y aller à pied, ils peuvent plus faire un regroupement comme par avant.
Compris.
Ça formait des liens plus facilement. Mais en même temps, Jeff, là, tu sais, tu as à choisir entre continuer le développement de son enfant dans peut-être une technicalité qui est vraiment ajustée à où il est rendu dans son parcours, pas le faire attendre un an parce que là, bon, il y a à mettre à niveau une gang de petits tannants même année pendant le même nombre de temps. Tu te mets à réfléchir, tu te dis, bon, mais les amis, il y en aura au parascolaire ou je ferai des livres. C'est complexe être parent maintenant. Là.
C'est très complexe. Et puis là, bien, je suis tombé là-dessus dans le temps des fêtes, un article qui expliquait qu'il y a des jeunes qui, dès la maternelle, passe des tests d'admission pour des programmes particuliers aux primaires. Alors, j'ai pensé à notre ami Sylvain Duclos, puis je me suis dit, faut absolument que je parle de ça avec Sylvain, parce que j'ai horreur, et là, je me positionne personnellement, j'ai horreur qu'on catégorise les enfants à bas âge. OK, toi, tu es assez bon pour être au programme international. Non, non, toi, tu vas être un joueur de hockey. Non, non, toi, tu vas être dans une classe particulière. Et ça, j'ai horreur de ça à l'école comme j'ai horreur de ça dans le sport.
Puis c'est super tough parce que tu dis, ils sont tellement jeunes, Jeff, ils devraient pas être catégorisés tout de suite.
Exactement.
Moi, j'ai pensé que le ski était, impossible à pratiquer dans ma vie en secondaire 1. Parce que je me dis, hey, je suis rendue trop vieille, ils ont tous commencé au primaire. Là, tu es en maternelle puis tu serais trop vieux pour faire quelque chose parce que tu n'aurais pas le même niveau d'éducation ou le même niveau de connaissance qu'un autre enfant.
Hey, c'est tellement drôle ce que tu amènes là parce qu'il y a plein d'enfants que j'ai connus, d'amis de mes garçons qui ne jouaient pas au hockey sur glace puis je leur disais, rendu à 13-14 ans, hey, inscris-toi, je vais te coacher.
Non,
je peux pas. Je ne serais pas assez bon. Eh bien, non, Grim, tu es capable de faire du sport.
Mais imagine, il y a 13 ans. À 33, ça va quand même faire 20 ans qu'il pratique le sport si jamais il commence pareil.
Exactement. Puis j'ai un de mes amis qui a commencé à garder filet à 24-25 ans. C'est sûrement le meilleur gardien de but de décorquer de la province présentement. Il a commencé à 25 ans. C'est pas pire.
Ça se peut qu'il ne fasse pas une carrière, là. Hein?
Non.
Ton chum,
il n'en fait pas une carrière, mais il est juste bien bon. Puis quand
il adore ça.
Ouais, puis quand on joue contre lui, on a juste bien de la misère à y scorer des buts, puis ça nous énerve.
Mais d'abord, va-t-il falloir qu'on se vous voit?
Ah, je sais pas. C'est une bonne question. Sylvain Duclos, enseignant, qui est au bout du fil. Sylvain, est-ce que je peux te tutoyer ou je dois te vouvoyer compte tenu que tu es un enseignant? Oh! Ah, c'est de ma
faute. L'autre ligne, il n'y a pas de problème.
Non, c'est de ma faute. Sylvain, est-ce que tu es là?
Oui, je suis encore là.
Ah,
on
excellent.
On peut tutoyer, il n'y a pas de problème.
On peut se tutoyer. Ah, je suis content, prof Duclos, de pouvoir te tutoyer. Sylvain, si on fait la parenthèse rapidement sur le vouvoiement, ça entre en fonction à compter d'aujourd'hui. J'ai vu qu'il y avait des enseignants et des enseignantes du préscolaire qui disaient « ça n'a pas de sens, ça va éloigner, ça ne créera pas le lien de proximité ». Bref, j'ai l'impression que les professeurs vont l'appliquer s'ils se doivent de l'appliquer.
Bien, les écoles devaient mettre ça dans leur code de vie pour aujourd'hui, que ce soit en fonction dans les écoles. Mais les écoles qui avaient à le mettre en place, la plupart l'ont déjà fait en septembre parce qu'on ne change pas de façon de se faire appeler avec les élèves en plein milieu de l'année. Ça n'a juste pas de sens. Puis je pense que ça va aller vraiment selon la logique des enseignants et des écoles. Il y en a qui vont être un peu plus stricts, d'autres qui vont pas mettre d'énergie là-dessus. Fait que je pense qu'on fait beaucoup de vagues pour pas grand-chose.
Oui, il y en a plusieurs qui disaient qu'ils allaient l'appliquer à la rentrée scolaire à l'automne prochain, qui trouvaient ça un petit peu complexe aussi. Est-ce que tu trouves ça complexe, toi, pour ta part, quand on vient, qu'on nous sert l'argument que, bon, pour certains jeunes, ils apprennent les pronoms, donc là, il ne faudrait pas les mélanger entre un « tu » plus singulier puis un « vous » qui est plutôt englobant là, à plusieurs personnes pour leur faire comprendre un peu ces pronoms-là, ou ça ne fait pas vraiment de différence dans ta tête?
Ben, je pense qu'au primaire, les premières années du primaire, c'est un peu plus complexe, surtout que dans la plupart des écoles, c'était déjà, supposons, Madame Mélanie ou Madame Jocelyne. Là. Donc, au final, on rajoute juste le « vous ». Est-ce que c'est vraiment plus respectueux? Pas certain. Au secondaire, ça a peut-être plus d'impact. On pense, entre autres, aux jeunes qui vont avoir des emplois étudiants, etc. Donc, ça peut être un bel apprentissage pour leur vie citoyenne. Je pense que c'est surtout là l'enjeu, pas mal plus que pour « est-ce que je respecte ou pas mon enseignant? » Parce que les jeunes... ça va être respectueux ou pas en vous voyant ou en tutoyant, mais la plupart vous voient déjà par défaut.
Ils peuvent envoyer promener un prof en le vous voyant aussi. Là.
Ça fait bien. Je l'ai déjà vécu là, dans, dans une école où il y avait le vouvoiement. Je me suis fait dire allez-vous. C'est vraiment
oui. Oui.
Ah, c'est ça, oui, exactement. C'est ça n'empêche pas ceci. Les jeunes sont très imaginatifs.
Ah oui, ils sont capables hein, quand ils ont une idée dans la tête. Puis nous autres aussi, on est vraiment capables. Mais Sylvain, est-ce que... moi, la problématique qu'on m'a le plus évoquée là-dedans, c'est le fait que le gouvernement essaie trop de s'immiscer dans les classes. Puis, bon, c'est un peu le même discours au niveau des cellulaires, dans les établissements scolaires, tout ça. Finalement, ça a servi. Il semble avoir une quasi-majorité de personnes, dont les jeunes, qui sont d'accord avec l'interdiction des cellulaires dans les établissements scolaires. Ça semble avoir même aidé énormément au niveau social et d'avoir fait un changement du tout au tout, en fait, dans les écoles. Mais ce qu'on réclamait le plus, c'est d'avoir une liberté d'agir au niveau de l'école en soi, et non de la commission scolaire qui se fait appliquer tout et partout la même façon de faire. C'est tout ça qui est encore déploré dans le vouvoiement?
Bien, le vouvoiement, c'est qu'on essaie d'appliquer mur à mur une consigne, puis c'est on va chercher un électorat de cette façon-là. On pourra dire qu'on sera d'accord ou pas, ça reste que ça va chercher des personnes plus âgées qui vont dire « Ah oui, le gouvernement ramène les choses comme c'était avant, puis c'était mieux avant ». Ça demeure ça, alors que, par exemple, si on revient à l'histoire du cellulaire, bien, si on avait donné aux écoles les moyens de faire appliquer les codes de vie puis les interdictions par rapport au cellulaire, on se rappellera qu'un cellulaire qui est confisqué, on doit le remettre à l'élève à la fin de la journée. Là. Donc, l'élève, au final, il perd pendant une pause ou un midi, c'est tout. Bien, si on avait donné les leviers aux écoles de faire ces interdictions-là, on aurait pu probablement arriver au même résultat. Maintenant, c'est positif. Dans les écoles, c'est la même chose. On peut dire... On aimerait avoir le vouvoiement, mais est-ce qu'on a notre besoin d'aller imposer à la petite école primaire de telle municipalité de faire le vouvoiement ou ça ne devrait pas venir d'un choix de l'équipe école et des parents sur le conseil d'établissement? Moi, c'est plutôt cette option-là que je choisis.
Oui, parce que quand on regarde la centralisation en général, Sylvain, au niveau de l'éducation, on se porte moins bien dans les écoles à l'heure actuelle que lorsqu'il y avait plus de latitude et d'autonomie au sein des directions et du personnel enseignant. Est-ce que je me trompe?
Bien, on est de plus en plus centralisé. Est-ce que ça va moins bien? Pas prêt à dire ça, mais ça va pas mieux, ça c'est certain.
Oui, exactement. Hey, Sylvain, tu parlais justement de la belle époque, puis tu disais, on vient chercher de l'électorat en mentionnant qu'on va mettre le vouvoiement dans les écoles comme c'était à l'époque. Moi, je le disais d'entrée de jeu, je m'ennuie de mon école de quartier. M'ennuie du fait qu'il n'y a pas de programme particulier en tant que tel. Les jeunes vont à l'école, au primaire, s'amusent, se font des amis, créent des liens sociaux. Je suis trop vieux jeu, moi, ou j'ai quand même un bon point là, de dire j'aimerais mieux avoir des écoles de quartier que plein de programmes spécialisés aux primaires avec des jeunes qui passent des tests d'admission à la maternelle?
Écoutez-moi, les histoires de tests d'admission aux primaires en maternelle, ça vient me chercher et jusqu'à un certain point, ça me scandalise. Ça fait longtemps que je sais que ça existe, mais de le voir nommé comme ça, puis dès la maternelle... ça vient me chercher parce que l'émission de l'école, c'est pas juste d'apprendre des connaissances. C'est aussi de développer des compétences, de socialiser les jeunes. Et à quel point est-ce qu'on socialise nos jeunes lorsqu'on les met toutes des jeunes pareils ensemble? et qu'on efface les inégalités en disant, ben, tous nos élèves qui sont performants, on va les mettre ensemble, puis on va s'assurer que les jeunes qui sont moins doués, puis là, je mets des gros guillemets à l'oral là-dessus, ben, eux, ils vont pas ralentir le groupe. Parce qu'au final, lorsqu'on évalue des jeunes en descente de leur maternelle, hein, ben, on évalue des jeunes qui ont été à l'école pendant 3 mois d'école.
Bon,
finalement, on vient d'évaluer le soutien social, familial et économique de nos jeunes.
Est-ce qu'on n'est pas en train, en plus, de créer une plus grosse fracture entre les différences de développement chez les enfants selon dans quelle famille tu es né? Je m'explique. Un enfant qui a un petit peu moins de moyens parental, des parents qui prennent moins de temps de travailler, de développement, etc., pour toutes les raisons du monde, qui arrivent à l'école, ils arrivaient enfin dans un genre de bassin où ils pouvaient partir à zéro, au même taux d'égalité, tiens, que les autres enfants. On n'est pas en train de créer une compétition puis même un débalancement à ce niveau-là?
Bien, on vient de créer un débalancement puis on vient de l'accentuer parce qu'au final, ce qui se passe, c'est que dans une école primaire où, supposons, on avait plusieurs élèves doués puis qui, eux, s'en vont tous, on va dire, à l'école internationale, pas loin, bien, les jeunes qui nous restent dans la classe sont tous les jeunes qui ont des difficultés. Donc, l'enseignante qui va être avec eux en première année, bien, elle va avoir 18 jeunes qui ont des difficultés d'apprentissage, et c'est là qu'elle ne fournit pas à répondre à leurs besoins parce qu'ils sont tous ensemble. Donc, il n'y a pas d'émulation positive entre les élèves, il n'y a pas d'élèves qui peuvent aider les élèves moins forts. Puis, quand je vous écoutais parler d'entrée de jeu, ben, au niveau des liens d'amitié aussi, ben, nos jeunes, ben, ils se lient d'amitié entre eux, les forts ensemble, puis les faibles ensemble, puis il n'y a personne qui se remonte vers le haut.
Est-ce que c'est le genre d'application qu'on souhaite faire pour peut-être venir aider le problème qu'on a créé il y a quelques années en mélangeant dans les classes, bon, des enfants à besoins particuliers, des enfants qui avaient des troubles de comportement, des enfants qui avaient un cheminement peut-être plus régulier, puis des enfants plus forts aussi. Tu sais, on avait dit, on va mélanger là, tous les genres, tous les cheminements ensemble, puis ça va créer un genre d'effet qui va remonter tous les jeunes vers le haut. Ça a été un échec total. On le voit, les profs sont débordés parce qu'on n'a pas de ressources qui sont venues aider dans les classes. Quand il y avait un enfant qui se désorganisait, par exemple, ben, le prof doit maintenant arrêter sa classe pendant 30 minutes, ça dure 30 minutes, s'en occuper. Pendant ce temps-là, les autres payent, en fait, pour le temps, la classe qui est arrêtée. Puis là, on s'est dit, merde, on l'a échappé avec cette façon de faire-là. Est-ce qu'on souhaite ne pas l'échapper à la maternelle, mais finalement, on crée un problème parce que c'est deux clientèles différentes?
Bien, en fait, ce qu'on a voulu créer lorsqu'on a eu la réforme, c'est qu'on a fermé beaucoup de classes de cheminement particulier, puis on a intégré ces élèves-là dans les classes dites régulières. Puis je comprends les parents qui, jusqu'à un certain point, se disent, bien, mon jeune, je veux qu'il avance, puis je veux qu'il ait son plein développement. Là, les parents ont fait, bon, ben là, ça commence à être compliqué dans les classes, donc on va sortir nos jeunes les plus doués, qui ont plus de facilité des classes. Au final, on a intégré d'un côté, mais on a ressorti les élèves de l'autre côté, et effectivement, c'est un échec lamentable jusqu'à un certain point. L'intégration aurait dû être faite jusqu'au bout avec les ressources nécessaires. Et en ce moment, ben, on se soupoute avec nos conventions collectives, les enseignants, des ressources additionnelles, les psychologues, les orthopédagogues, etc., un peu partout dans le réseau, au primaire, au secondaire, hein. Alors que normalement, si nos jeunes avaient l'appui dont ils ont besoin dès les premières années du primaire, hein, on ne devrait pas en avoir de besoin au secondaire parce que nos jeunes auraient des assises qui sont solides. Et là, ils traînent des difficultés sur le long terme. Puis moi, je ne blâme pas les parents qui choisissent une école comme l'école internationale pour leurs jeunes parce qu'ils veulent le meilleur pour leurs enfants. Ils essaient de sortir leurs jeunes du réseau pour pas qu'ils perdent son temps. Mais il faut avoir une réflexion plus large sur la qualité de ce qu'on donne dans le réseau puis le soutien qu'on donne à nos jeunes.
En effet, je suis tellement d'accord avec toi, Sylvain. Puis moi, pour moi, l'école, c'est pas juste des notes sur un bulletin, c'est aussi des valeurs enseignées à nos enfants. Et je trouve qu'on a perdu la valeur de la responsabilisation. Et je m'explique. Moi, j'étais bon en mathématiques, j'étais moins bon en français. Bien, dans ma classe de 6e année, on était 32, là. Bien, j'aidais les gens en maths, puis j'en avais d'autres qui m'aidaient en français. Donc, il se créait une chimie entre tout le monde qui faisait en sorte que la classe fonctionnait bien. Est-ce qu'on a perdu ça dans nos écoles, le fait de responsabiliser justement nos enfants?
Bien, je vous dirais qu'on a peut-être un petit peu perdu cette idée de penser en dehors de la boîte. Puis je pense que ça aiderait beaucoup nos jeunes. Puis on essaie de calquer le modèle du secondaire. Puis là, la question de l'école à trois vitesses au secondaire, c'est une autre question dans laquelle on n'ira pas. Mm-hmm. Puis là, on commence à essayer de le calquer au primaire. On dit nos jeunes qui sont doués, mais faut pas qu'ils perdent leur temps. Moi, mes filles sont très douées à l'école. Je les ai pris sous mon aile dans leur jeune développement, puis ça va bien à l'école. Mais mes filles n'ont pas besoin d'avoir de l'enrichissement dans la classe. Lorsqu'elles ont de l'avance, par exemple, l'enseignante les envoie dans une classe d'un niveau inférieur pour aider les jeunes en lecture. Elles sont hyper fières, puis elles développe des nouvelles compétences par rapport à ça. Puis moi, je trouve ça génial.
Oui, justement, Sylvain, moi aussi, je trouve ça génial que ça se fasse encore dans les écoles. Puis tu viens là d'aborder là, justement une thématique que j'adore. T'sais, tu disais tout à l'heure, bah, je peux pas en vouloir aux parents de vouloir le mieux pour leurs jeunes. Mais en même temps, si on ne se donne pas la chance de développer les compétences des jeunes qui ont peut-être des difficultés en première et en deuxième année, deviendront jamais l'enfant performant en sixième année, alors qu'avant, j'ai l'impression qu'avec l'école de quartier, on avait cette possibilité-là d'amener les gens vers le haut.
Bien, tout à fait, on avait cette possibilité-là, puis les jeunes ont la possibilité de se développer tout au long de leur parcours scolaire, puis des fois, moi j'aime bien dire, c'est pas toutes les grains de pop-corn qui éclatent en même temps dans le micro-ondes, là. Bien là, c'est la même chose, c'est pas parce que ton grain de pop-corn il a éclaté en maternelle, que l'autre à côté ne va pas éclater en quatrième année. Moi, personnellement, j'avais beaucoup de difficultés à l'école jusqu'en première secondaire. Mm-hmm. Puis, je suis enseignant, puis j'ai fait mes maths fortes, là. Fait que, hein, les fameuses maths fortes dans le temps. Donc, tu sais, j'ai éclaté, mais j'ai éclaté plus tard. Puis avoir été mis de côté comme ça, je suis pas certain ce que ça aurait donné à l'époque sur mon cheminement scolaire.
Mais j'ai l'impression qu'on inculque un peu la performance trop tôt dans la vie de ces jeunes-là, dans une génération qui, depuis quelques années quand même, là, croule sous l'anxiété, le stress de performance. Ils ont beaucoup d'activités parascolaires, etc. Puis en même temps, je suis déchirée parce que c'est l'époque à laquelle le cerveau est une éponge. Donc, les jeunes peuvent encore, dans le divertissement, apprendre tellement, forger leur cerveau et tout ça. Je me suis juste demandé pourquoi on s'est rendu là. C'était quoi l'exigence de se rendre là? Comment ça se fait qu'on est rendu avec des tests d'admission à la maternelle pour ces jeunes-là? C'est-tu parce qu'on arrivait de tout acabit, le Montessori, le CPE, la garderie familiale ou juste à la maison, puis les enfants étaient vraiment plus développés de la même manière puis arrivaient à des niveaux complètement différents?
Personnellement, je pense que c'est parce qu'on s'est mis le doigt dans une logique marchande par rapport à l'éducation, puis on veut le meilleur pour nos enfants. Donc, on a calqué le modèle du secondaire sur les écoles primaires. J'ai une amie qui me disait récemment que dans certaines écoles privées, les parents demandent déjà à partir de quand est-ce que je peux inscrire mon enfant. La femme est enceinte, puis elle se questionne à savoir si elle peut inscrire son enfant à l'école privée ou au secondaire. Donc, on voit qu'il y a une espèce de logique marchande qui est déjà inculquée là, chez certains parents qui veulent vraiment à tout prix avoir des jeunes très performants.
Sylvain Duclos, merci infiniment pour ta collaboration à l'émission On en jase à Boulevard 101. On se reparle prochainement parce que l'éducation fait vraiment partie des valeurs en société très, très, très importantes.
Merci à vous de me joindre.
Good. Merci, salut Sylvain, salut. Merci beaucoup. Hey, on a des excellents commentaires, notamment sur Twitch. On ne demande jamais aux enfants ce qu'ils aimeraient. On prend toujours les études des X, Y, Z spécialistes et ils décident à la place de nos enfants ce qu'ils aiment ou devraient aimer. Moi, je me reconnais beaucoup là-dedans et je t'explique. Elliot, il avait son école de bassin au primaire et pas loin de chez nous, il y avait aussi une école qui avait un programme d'études internationales. Puis, on l'envoyait, comme tous les parents font, en disant « Ah ouais, ça serait peut-être le meilleur pour notre enfant. » On l'envoyait faire ces fameux tests d'admission-là. Ouais. Écoute, il n'était même pas en maternelle. Là. Il s'en allait à la maternelle. Il a fait des tests d'admission. Il a passé les tests d'admission. Mais je l'ai amené aussi à la réunion de son école de bassin. Et son école de bassin, c'était axé sur plus d'activités physiques. Fait qu'on est revenu à la maison, même si mon petit pote avait 4 ans, j'ai dit « Eliott, qu'est-ce que tu as le goût? T'as-tu le goût d'aller à la place où t'as fait les tests d'admission? Ou t'as le goût d'aller à l'école où t'es allé en réunion? » Et il m'a répondu, « Moi, papa, je veux bouger. Donc, je veux aller à cette école-là. » La catastrophe qu'on a vécue, moi et la mère des enfants, l'école de programme international a dû nous rappeler 4 fois pour nous dire, « Bien là, vous êtes sûr? »
Voyons, ouais, ça nous dit. Ah, il y avait une pression, OK.
Ça nous est jamais arrivé. Qu'il y a quelqu'un qui ait dit non. Votre enfant est ennemi, là. Hey, imaginez l'avenir que vous allez donner. On s'est fait casser les oreilles, mais nous autres, tout ce qu'on voulait, c'était de dire, Eliott, il y a le goût d'aller bouger. Hey, vas-y, bouger, man. T'as 4 ans.
Je suis divisée. Moi, je suis pas parent, OK? Fait que je vais y aller avec plutôt mon expérience personnelle. J'ai la chance d'être née dans une famille extrêmement aimante, OK, Jeff? Mais on était trois filles, nous autres. Puis on était trois filles et on se développait beaucoup à la maison par la qualité sociale, la qualité chez l'autre. C'était très humain, moi, dans mon foyer. C'était moins sportif un peu. On était sportifs dans la danse, mes soeurs ont fait du soccer et tout ça. Puis moi, j'étais très tournée vers mes livres, vers mes Barbie plus jeunes. Je jouais avec mes amis. Puis le sport, c'était pas très présent dans ma vie à moi. Puis donc, j'ai pas vraiment développé d'enthousiasme à bouger. Ça a pris du temps. Même le soccer, je me rappelle au terrain de jeu, ça me faisait suer quand c'était ça l'activité du jour. Moi, tout ce qui était camp de sport, tu m'aurais fait manger du boudin chaque jour, ça aurait été mieux et tout ça. Puis c'est vraiment par la méconnaissance, puis je me rends compte par le manque de sentiment d'estime de moi-même, parce que je me disais, j'ai tellement jamais touché à ça que j'ai pas pu développer, les capacités
Je comprends.
Puis les jeunes filles avec qui je me tenais à ce moment-là, c'était pas des sportives non plus, peut-être un petit peu moins bonnes avec les ballons. Puis là, à un moment donné, en grandissant, je me suis rendu compte, ah non, je suis bonne. J'ai joué au rugby. Ah, OK, non, j'ai des capacités. J'ai fait du cheerleading pendant un bout. Et
là, tu viens de monter le Kilimanjaro, fait que ça va mieux.
Puis je me suis rendu compte que j'ai perdu beaucoup. J'ai perdu beaucoup à ce qu'on ne me pousse pas, qu'on m'oblige pas au niveau parental à en pratiquer une activité physique parce que j'avais des parents qui, bon, un avait un petit peu plus l'application, ben, elle va faire ce qu'elle aime. Puis un qui avait un peu plus de l'application, ben, ouvrons tous ses horizons. Je veux au moins qu'elle fasse une saison de ci, ça, ça. Si elle aime pas ça, il faut qu'elle finisse sa saison, c'est un engagement. Mais après, elle pourra choisir autre chose. Au moins qu'elle trouve sa passion. Fait que de là, moi, j'ai perdu la possibilité de faire du ski, etc. Parce qu'on ne m'a pas poussée. On respectait tellement ce que je voulais. Fait que c'est pour là, je suis un petit peu déchirée parce que je sais que...
C'est intéressant ce que tu parles.
J'ai pas été amenée à développer toutes mes compétences. Puis jeune, c'est le moment. Jeune, maintenant, il y a tellement de performances. On doit être bon tout de suite. Il y en a un qui commence ses pistes à 2 ans. Si tu commences à 10 ans, t'es bien trop vieux. Ça, c'est triste, OK? C'est triste. Mais c'est encore la période de ta vie où tu peux essayer des choses plus facilement que quand la vie adulte arrive. Parce qu'à un moment donné, t'as peur. T'as de peur de casser les bras. T'es insouciant quand t'es jeune, donc c'est le moment. Puis ça, je l'ai en tête. Je n'ai aucun reproche à faire à mes parents. Ils ont tout fait avec ce qu'ils avaient. Puis ils ont été conjointement capables de nous élever dans une lignée, tiens. Ils s'entendaient là-dessus, ils se respectaient. Mais je sais que ça, à 31 ans... Ça m'a manqué. Ça m'a manqué dans ma jeunesse.
T'as raison. Puis vois-tu, des fois, je me demandais, est-ce que moi et la mère des enfants, on est allé trop loin puis on les a jamais poussés dans le sport élite? Mais, tu sais, au jeune âge, on a dit, faut développer leur motricité. Fait qu'on les a envoyés faire de la gymnastique.
Super.
On les a envoyés faire du trampoline. Après ça, les gars, on s'est dit, deux choses essentielles au Québec avec les hivers qu'on a, faut que les gars sachent patiner. Faut que les gars sachent faire du ski.
Pas obligé de coûter cher. Si le ski, tu pouvais pas, c'était pas grave.
Exactement.
Mais t'es envoyé dehors.
Sine était une ancienne enseignante de ski. Elle a dit, je m'occupe du ski. Toi, t'as joué au hockey toute ta vie. Occupe-toi du patin. On les a développés. Mais aujourd'hui, je me rends compte que c'est un extraordinaire coffre à outils qu'on leur a offert.
Mais oui.
Parce que les gars peuvent faire n'importe quoi.
Ils ont pas peur. Ils manquent pas d'estime à essayer quelque chose. Longtemps dans ma vie, moi, j'ai manqué d'estime à essayer des nouvelles choses. Ça a débloqué, je te dirais, à l'âge de 14, 15, 16, là. À ce moment-là, j'avais un je m'en foutisme, là. Mais je me rappelle que sinon, j'osais pas. J'avais le goût, mais j'osais pas. D'un coup, je me ridiculise. Puis maintenant, c'est comme un peu ma doctrine de vie. Moi, je suis prête à embarquer dans n'importe quoi, à n'importe quel moment, puis je vais m'arranger pour que ça fonctionne. Mais avoir eu ça jeune...
Puis c'est vrai
un autre adulte.
C'est vrai que c'est un sentiment, ça, le sentiment d'insécurité, entre guillemets, qui peut justement venir se travailler. Puis que si les parents le travaillent en jeune âge, j'ai 418-971-1001, si vous voulez nous donner votre opinion, comment vous gérez vos enfants avec l'activité physique. Parce que moi, je vais prendre l'exemple d'Eliott. Ah ouais, tu fais le football à l'école? Bah, on va l'essayer. Ah ouais, du rugby? Ah, on va l'essayer. Ah ouais, il y a ça? Ah, on va l'essayer.
Parce qu'il y a la base des capacités physiques aussi.
Exactement. Puis il a vécu des réussites, évidemment, plus jeunes, en étant justement poussé à se dire, bon, ben là, mon homme, on va patiner.
Puis il n'a sûrement pas été gêné d'essayer, donc de ne pas être super bon au début, puis après ça, de s'améliorer et tout ça, tu sais.
En plein ça.
Au niveau des maths, moi, ça a été plus long, là, la base de la maths, là. C'était pas quelque chose qui m'intéressait. J'étais gêné parce que nous, de la façon dont ils nous éduquaient dans les écoles, c'est on faisait les pas de géant, fait que les multiplications, c'était dans le gymnase, devant tout le monde. Puis quand tu l'as, t'avances. Et que c'était humiliant.
Ça me fait penser à les tableaux avec les notes sur le babillard.
C'est tellement humiliant, mon vrai. Faut que je comprends des fois des mesures d'éducation qui sont différentes.
Les parents ont du décrochage scolaire.
Sérieux, je veux dire, moi, ils ont tout
essayé. Moi, je repense à des gars qui ont décroché au secondaire quand ils disaient, ouais, c'est pas mal, pourquoi ils ont décroché. Tétané qu'ils soient marqués 62 sur le tableau
devant
à côté
tout
de
le monde,
autres, devant tout le monde.
Ça définit quitter avec une étiquette et une estime, mais... À un moment donné, ça a débloqué puis parce que je me faisais confiance. Je mettais plus de temps, même si je n'aimais pas nécessairement ça. Puis là, c'est venu que je me suis rendue dans des concours d'habileté au Québec, au Canada. Tu sais, je me rendais... Puis là, mes parents étaient comme, c'est qui, elle? Depuis quand elle fait des concours de maths? Puis elle sera à l'Université Laval, un petit bout. Mais on m'a poussée. Puis, tu sais, j'ai été chanceuse, je le répète, mais le programme d'éducation internationale, moi, que j'ai fait au secondaire dans une école publique, on payait un peu plus, mais quand même.
Oui, mais pas comme dans une école privée, là,
évidemment. M'a beaucoup servi parce que j'ai vu la différence aussi au secondaire. Ouais. Par la suite, surtout au cégep, quand je suis entrée, pour moi, le cégep a été deux doigts dans le nez. La façon dont on nous faisait travailler, je trouve que c'est presque un scandale que ce soit pas comme ça au régulier aussi. Je te parle pas de la performance qui est demandée, la cotation,
la méthode,
la note là. Moi,
tu me parles de méthode,
je le demanderai
pas
à tout le monde. Ben oui. Après, si on n'avait pas 85, je pense, on se faisait kick out, là, on se faisait sortir du programme. Ça, je l'appliquerais pas au régulier. Mais la façon dont c'était fait, on était porté vers l'autre, on avait une obligation de bénévolat annuellement, puis ça faisait partie du parcours, puis on devait le faire. Moi, ça, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de mesures qui ne sont pas appliquées aux réguliers. Ça crée, parce que ton jeune doit être créé, oui, au niveau professionnel, au niveau des capacités de l'apprentissage, mais si on fait que ça, puis on ne développe pas le côté humain du jeune, donc des fois de côtoyer des jeunes qui sont moins forts qu'eux dans leur propre cours, puis d'avoir de l'entraide qui est appliquée, d'avoir une façon de voir l'autre qui est moins bon, qui n'est pas discriminatoire, qui est plutôt « Hey, moi, je peux t'aider là-dedans, toi, tu peux m'aider là-dedans. »
Bien, c'est ce que je fais tantôt quand j'ai responsabilisé.
Puis ça, c'est important.
Puis vois-tu, je disais, je m'ennuie de mon école de quartier, je tiens pour ça, parce que Edouard, lui, est à son école de quartier au secondaire. Bon, il est dans un programme football, mais c'est donné dans son école de quartier. Puis un peu comme toi avec le PEI, ouais. Ça nous coûte une fraction du prix que si il était ailleurs. Et là, ils ont fait un deal, la gang, ensemble. Puis c'est des amis qui ont suivi du primaire, justement, parce qu'elle est à l'école de quartier au secondaire dans le programme de football. Edouard leur a dit, « Hey, moi, là, vous êtes quatre à pas savoir patiner. » L'année passée, il est arrivé chez nous, il a dit, « Je leur monte à patiner. »
Ça, t'apprends pas ça dans tes cours.
Non.
T'apprends ça par des occasions comme celle-là.
Exactement. Fait que là, les gars sont allés dans des magasins usagés, sont achetés des patins, puis papa.
Mais ils étaient pas en train de rire d'eux?
Du tout.
Ils les invitaient?
En plein
au
ça.
Contraire.
Ils leur ont montré à patiner. En retour, il a dit aux boys, « Moi, il y a de la misère à mettre en histoire. Il y en a-tu qui peuvent m'aider? » Fait que c'était écœurant. Parce que là, secondaire 4, ils s'en vont à la patinoire extérieure. Ils se dépensent de l'énergie à mort, puis après ça, ils débarquent chez un ami ou dans le sol chez nous, puis ils étudient l'histoire et les maths.
T'es choyé, t'es choyé.
Sur ça, je dis, moi, je m'ennuie de l'école de quartier. Super beau texto qui est rentré, une maman. Moi, j'ai été une maman qui a toujours suivi ses enfants dans le sport et dans leur sport-études. Mais il faut être conscient que ça prend du temps. Mais je savais qu'en bout de ligne, c'était payant pour le futur et leur estime de soi. La rigueur sportive apporte beaucoup. Et ça, là, je l'entends de beaucoup de parents. Ah non! Moi, je refusais que mon enfant fasse ça, ça me prendrait trop de temps. Hey, moi, là, j'ai jamais rien refusé parce que je me suis dit, c'est à moi, en tant que parent, prendre le temps. Je coach mes go hockey. Des fois, Val rit de moi parce qu'elle dit, oh, tabarouette, t'es toujours en train de faire des lifts avec ton minivan. Oui, parce que je m'en fais des lifts parce qu'ils s'en vont bouger. Mais ils s'en vont faire des activités.
Des fois, il y a des parents qui n'ont pas cette possibilité-là financière, par exemple.
Ça, c'est
ça,
clair.
C'est super crève-cœur.
Ah, ça, c'est crève-cœur.
Puis l'autre affaire, si t'as pas le temps, mettons que t'es monoparental ou tu travailles très
en
fort
effet.
Pour joindre les deux bouts, ça aussi, c'est crève-cœur.
Ben oui, c'est crève-cœur aussi.
Puis l'équilibre doit être difficile en tant que parent entre la performance puis le fait de les développer. Mm-hmm. Parce que plus tu montes, plus dans une équipe, par exemple, prenons le hockey, tu deviens élite ou je sais pas quoi, plus ça vient avec une pression de performance.
C'est clair.
Un comparatif. L'équilibre doit être très, très difficile à aller chercher, mais rien ne doit être... négligé.
Ouais. Salut mon ami Jérôme, qui je trouve tellement qu'il a fait une belle job parce que lui, il y a un enfant qui était super doué, bien qu'il l'est encore là, au hockey, Raph, qui a joué dans le midget 3. Là. Puis là, malheureusement, à raison d'une blessure à l'épaule, il a dû arrêter. Mais au même moment, il y a Oli et voyons, Colin, c'est niaiseux, j'ai oublié le nom de son plus vieux, Zach, qui était dans le hockey mineur simple lettre. Il jouait contre mes gars, tout le kit. Mais lui, là, il les a montés pareil, les trois. Tu sais, dans le sens, il y en a un qui a un talent générationnel que tu sais pas trop d'où ça sort.
Ouais, c'est inné.
Mais il n'a pas mis de pression. Il n'a pas fait sentir ses gars, ses deux autres gars, à l'écart en disant « Je vais tout investir dans lui parce que peut-être qu'il pourrait jouer dans la Ligue nationale. » Tu sais. Il les a montés les trois pareils. C'est juste qu'il y en a un qui avait plein de talent. Mmh. Puis là, celui qui a plein de talent, blessé une épaule. Malheureusement, il a joué 2 ans avec le gars Martin Dallaire, animateur à week-end de l'autre côté. Et c'est-tu ce que t'es pour montrer à quel point il a renseigné les bonnes valeurs? Ben là, son gars, il a dit « Hey, ben, tant qu'à être blessé, moi, puis pouvoir jouer au hockey contact, là, jamais joué avec mon frère. Penses-tu que je pourrais aller jouer avec? » Puis là, les deux jouent ensemble dans la même équipe.
Wow, c'est normal, le fun, ça.
C'était écœurant, donc je le salue. J'ai vraiment trouvé que c'est... Je trouve que c'est un père exceptionnel, justement, pour ça.
Très bien fait, puis très pertinent aussi comme commentaire. Écoute, je te lirai 2 autres textos qu'on a reçus avant de faire les nouvelles, mais quelqu'un qui nous dit « Combien d'enfants, moi le premier, sont sortis du secondaire en pensant être mauvais pour étudier? Ils se sont ramassés en technique, en DEP. » C'est pas une critique de sa part, on a besoin de ça.
Ben oui.
Mais qui se sont rendus compte par la suite qu'il avait juste besoin d'apprendre quelque chose d'intéressant pour être bon. Mm-hmm. Puis qu'il avait une super mémoire, une super capacité de performance, une super capacité d'apprentissage, mais ça dépendait dans quoi, puis c'était pas valorisé. Oui. Il fallait être comme bon dans toutes les matières, puis accepter que si tu n'es pas super bon dans 2-3, t'es pas bon à l'école, finalement.
Non,
exactement. Ça, c'est vraiment pertinent. Quelqu'un d'autre nous dit « J'ai toujours été dans l'excellence à l'école, à tous les niveaux, cependant. » Personne n'a exprimé de fierté ni d'accompagnement dans ma quête scolaire, alors je suis restée incapable de persévérance ou de discipline.
Ouais, c'est là qu'on voit que l'encadrement fait pour beaucoup. Un adulte significatif, l'encadrement, c'est pas nécessairement juste le parent, ça peut être un adulte significatif dans un centre communautaire, à une école quelque part, qui justement fait en sorte que oh, t'as le goût de continuer, t'as le goût de progresser. Je pense notamment à François, le coordonnateur du football à la Poly de Charlebourg, qui est aussi éducateur dans l'école. C'est un adulte significatif pour tellement d'enfants, puis ça fait en sorte qu'eux progressent, puis par la suite, là, peuvent continuer. Je trouve ça beau, la maman qui nous écrit sur les ligues sportives, elle dit « Aujourd'hui, mes deux filles coachent dans le sport qu'elles ont fait jeunes et elles sont capables d'expliquer ce que ça apporte. » C'est tellement vrai. Quand tu es capable de redonner à l'autre par la suite. J'en vois plein. Moi, je suis impliqué dans le tournoi de soccer du Tricarré. Je vois plein de jeunes adultes de 20-21 ans qui sont impliqués bénévolement dans le tournoi. OK, c'est beau, là, je m'en vais coacher mon équipe sur tel terrain. Après ça, je reviens, je fais le casse-croûte. Wow, je le regarde, j'ai quels beaux adultes de demain. Donc, franchement, continuez d'interagir au 418-971-1021. On va en lire quelques textos également après la courte pause. Puis on fera des nouvelles. Pascal également au retour de cette courte pause, si tu le veux bien. Et on va conclure l'émission maintenant. C'est un beau premier, on en jase. Ça. C'est une belle conversation.
On commence l'année.
Hein? On commence l'année 2026 en philosophie pour nos enfants. Puis c'est important. Faut être présent pour nos enfants. Il faut leur enseigner des bonnes valeurs.
Oui, puis pour les nouvelles, restez là parce qu'on va reparler de Nicolas Maduro. Il a plaidé non coupable officiellement aux États-Unis.
Excellent, on parle de tout ça après cette courte pause à Boulevard 101. C'est l'émission On en jase. Pascal Cévron, on a les meilleurs auditeurs, il n'y a pas de doute à l'émission On en jase. Puis sur Boulevard en général, parce qu'on fait le matin aussi et tout ça. Puis on sait qu'on a des bons auditeurs. Et on a reçu un excellent texto ici. Maman de 4 enfants entre 11 et 16 ans. Je les appuie dans tout ce qu'ils veulent essayer. Par contre, je me dois de me respecter aussi. En effet, c'est un excellent point.
En plus, à 4 enfants.
Hein? Ben, c'est ça. Je ne les pousse pas vraiment à essayer 350 affaires. Ils doivent apprendre à s'ennuyer et auront toute leur vie pour essayer tout ce qu'ils veulent.
Mais ça, c'est vrai. Hein? Oui. Le bout de s'ennuyer, là, moi, je enfant de 3, que je te disais qu'ils m'ont peut-être pas assez poussé dans certaines choses. Pour en ce qui a trait du sport, entre autres. Ouais, on respectait beaucoup le fait que je n'étais pas une très grande sportive quand j'étais jeune. Mais j'aurais aimé qu'on me pousse un peu plus parce que je pense que la science infuse du parent a à avoir là-dedans. Là. Mais ça a beaucoup développé ma créativité. Jouer toute seule, être dans mes affaires, pour moi, c'était pas lourd, c'était pas difficile. Mm-hmm. Je suis bien avec moi-même. D'inventer des jeux de rôle, j'en ai fait énormément. Ça aide beaucoup dans le contexte de mon travail. Tout au long de ma vie, ça a été ça aussi. Il y a différentes aptitudes qui sont acquises dans différents environnements. Fait que c'est là où que l'équilibre est intéressant dans ce contexte.
Oui, vraiment. Puis l'équilibre, ça sera toujours la clé. Tu as tellement raison. Puis ça me fait penser, là, justement, mes gars font beaucoup d'activités. Bon, on leur a montré beaucoup d'activités, mais ils ont eu beaucoup de temps à s'ennuyer aussi.
Puis des enfants qui sont capables de jouer tout seuls, pas toujours en train. Quand t'es jeune, nous autres, il y avait une table de parents, une table de jeunes. Puis quand t'étais un des seuls jeunes, ou peu importe, tu tapais pas tout le temps sur l'épaule de ton parent là, dans la soirée.
Mon Edou avec les toutous qu'il y avait, là, il s'en est monté des zoos. Puis les autres toutous visitaient le zoo, je peux te le jurer. Là, j'entends sa petite voix dans le sol. Hey, « Là, ici, bienvenue, c'est la loutre. » Ben, oui, exactement. Puis Elliot a se monté des scénarios de films. Puis après ça, inviter ses amis pour filmer ses scénarios. Là, dans chicaner une couple qui ne respectait pas le scénario, mais ça, c'est une autre histoire. Mais c'est ça, c'est de la c'est de la créativité. Martine aussi, je te félicite grandement. Bravo. Mes enfants ont fait du sport et ont toujours eu le choix. Je suis monoparental. Ça demande juste beaucoup d'organisation. Et mon fils a suivi dans les compétitions de ma fille. Et ma fille a suivi aux différentes compétitions de son frère. Et chacun d'eux ont eu l'opportunité de s'encourager l'un et l'autre et développer un lien entre eux. J'ai investi du temps aujourd'hui. En sont reconnaissants. Aujourd'hui, ils ont 20 et 22 ans et ils ont beaucoup appris de ça. Ça, c'est tellement important parce que, moi, pour moi, c'était une prémisse essentielle quand les gars faisaient du sport, puis encore là aujourd'hui, puis ils le font par eux-mêmes, là, mais c'est « OK, tu t'en viens à l'aréna, ton frère joue, tu t'en viens encourager ton frère. »
Parce que tu devais prendre soin puis t'occuper de l'autre aussi en même temps. Puis au pire, il s'ennuie pendant cette période-là, il se trouve des jeux dans sa tête ou à faire quelque chose.
En plein ça.
Ça, c'est un super bon point qu'elle nous amène, Martine, là-dessus, parce que honnêtement, avoir l'opportunité aussi de regarder, de s'encourager, de chapeauter, ça crée une fratrie forte, mais développe des compétences pour la suite.
Vraiment, tu sais, je disais l'autre jour, je jasais avec de mes amis, puis je leur disais, je me souviens plus c'est quand la dernière fois que mes gars se sont chicanés. Parce qu'ils se sont tellement toujours encouragés comme ça.
Puis ils ont vieilli aussi.
Puis là, ils ont vieilli, là, fait que là, ils arrêtent de chicaner. Là. Mais je me souviens plus la dernière fois qu'ils se sont chicanés. Fait que ça crée cet esprit familial-là qui, pour moi, est essentiel. T'sais, quand t'es une famille.
Ben, oui, puis tu sais, quand les parents vont partir, qu'est-ce qui reste? C'est la famille. Qu'est-ce qui reste? Ce sont les amis, l'entretien des liens, tout ça. Je pense que c'est un point qui se vaut. Puis l'esprit d'analyse aussi. Tu sais, l'enfant qui va regarder un jeu, qui va essayer de le comprendre, les règlements. Il y a des choses qui sont oubliées, mais c'est dans la plus simple expression de certaines activités. Ça forge beaucoup. T'sais, maintenant, ils sont sur leur tablette, ils sont sur leur cellulaire, mais d'observer le monde autour d'eux, ça crée des repères mentaux. C'est... En tout cas, moi, je pense qu'on en échappe beaucoup, mais pas les parents, la génération, la situation, moi-même. Sur mon siège, je critique personne.
Il n'y a personne de parfait, puis moi, je suis le premier parent à faire des erreurs et à en faire encore. Il n'y a pas le guide de A à Z, qu'est-ce que tu dois faire en tant que parent.
On commence à voir les impacts réseaux sociaux, là, fait qu'on ne peut pas demander à quelqu'un d'être parfait depuis des années.
Non, il n'y a pas ce guide-là. Moi, ce qui a aidé mes enfants, par exemple, à aller voir l'autre à l'aréna aussi, c'est que papy et mamie sont toujours dans les estrades. Putain, dans ce temps-là, papy et mamie avaient toujours un petit 2$ qui traînait pour aller acheter des bonbons ou un affaire
papy et mamie gâteau.
Ouais, c'est ça. Fait que ça aidait. Mais vois-tu, mon grand de 16 ans, l'autre jour, est venu voir son frère à Val-Bélair de 18 ans. Puis devant ses amis, il a dit à sa mamie, « Hey, mamie, on va se faire notre petit colleux. » Puis il a fait le colleux à mamie. Fait que ça crée des beaux liens aussi. C'est bien le fun. Parlant de beaux liens, il n'y a pas nécessairement un bon lien entre Nicolas Maduro et les États-Unis et Donald Trump. Là, il a plaidé non coupable. C'est ce que tu nous disais avant la pause.
Exact. Donc, président vénézuélien, pardonnez-moi, déchu. Il a comparu devant la justice américaine de New York un peu plus tôt aujourd'hui. Effectivement, il a plaidé non coupable. Pendant le moment où tout ça se passe, les États-Unis veulent diriger le Venezuela jusqu'à temps qu'on puisse trouver une transition sûre. C'est ce qu'a dit Donald Trump. Particulier quand même, là, en ce moment, c'est le fils du président vénézuélien, Nicolas Maduro Guerra, qui est député réélu, qui a apporté aujourd'hui, pendant l'installation de la nouvelle Assemblée nationale, il dit son soutien inconditionnel à la présidente par intérim, Delcy Rodriguez. Il a ensuite assuré que son père, sa belle-mère, la première dame, là, Celia Flores, qui a aussi été kidnappée, hein, c'est vraiment un kidnapping, et accusé, vont revenir. Donc, sur la décision de la Cour suprême, c'est la vice-présidente vénézuélienne, Delcy Rodriguez, qui a reçu le soutien de l'armée aussi. On assure que la présidence par intérim du pays sera faite par cette femme-là. Est-ce qu'on lit entre les lignes qu'on va aller rechercher Nicolas Maduro? Peut-être. Est-ce qu'on lit entre les lignes que les deux sont sur la lignée de se confronter? Peut-être, mais on a promis toutes les procédures possibles pour obtenir le retour au Venezuela du président déchu Nicolas Maduro. Ça augure mal un peu dans la façon de voir la politique du côté de Maduro, ça n'a jamais été quelque chose de non-violent, ça n'a jamais été quelque chose de, comment dire, dans les pourparlers. Peu de place au discours, beaucoup de place à la dictature.
En effet.
Donc, qu'est-ce qui va se passer? Là, la question se pose. En même temps, on ne veut pas que ça pète à l'international. J'ai l'impression que le Venezuela non plus. Mais leurs alliés sur le terrain, pour ces gens-là, c'est une partie de la Russie, une partie de la Chine.
Colombie aussi, avec le narcotrafic, avec des guérillas. Donc, c'est pas des gens, là, je vais le mettre en guillemets, c'est pas des gens doux. Là. C'est des gens qui peuvent passer à l'action.
Exactement. Manifestants, médias internationaux, tout ça s'est rassemblé devant le tribunal fédéral de New York pendant que comparaît Nicolas Maduro. Il faut savoir aussi que les avocats de Nicolas Maduro et de sa femme font état de problèmes de santé chez leurs clients. On sait qu'ils étaient à l'intérieur d'un centre carcéral où l'insalubrité régnait, où il y avait énormément de difficultés puis que c'était en décrépitude. On a sûrement choisi ça de façon, absolument réfléchie. Là.
C'est
Maduro aurait des problèmes de santé médicaux qui nécessitent une attention particulière. C'est ce qu'on a souligné du côté de l'avocat du président déchu. Et sa femme, elle, aurait subi des blessures importantes pendant son enlèvement. Elle pourrait avoir une fracture, des contusions aux côtes, etc. Elle a besoin d'un examen physique. Alors, on joue là-dessus aussi. L'audience est terminée au moment où l'on se parle. La prochaine audience, c'est le 17 mars, seulement à 11 h. Alors, je vous rappelle, on est seulement le 5 janvier. En attendant, sa femme et Maduro ont repris le chemin de la prison. Il a plaidé non coupable, donc il souhaite exercer son droit à ce que l'acte d'accusation soit lu au tribunal. Il a répondu qu'il préférait le lire lui-même. Donc, il a, dans la foulée de plaider non coupable aux actes d'accusation qui étaient déposés, bien, il a pris la parole en disant « Je suis innocent, je ne suis pas coupable, je suis un homme bien ». Sa femme aussi a plaidé non coupable dans tout ça. Si je peux vous parler de l'acte d'accusation, donc selon cet acte-là, Maduro occupe diverses fonctions gouvernementales et on a des problèmes aussi avec les passeports diplomatiques vénézuéliens parce qu'on en aurait fourni à des trafiquants de drogue, donc une couverture diplomatique aux avions utilisés aussi pour blanchir l'argent de la drogue du Mexique vers le Venezuela. Et ses complices se sont associés à certains des trafiquants de drogue et narcoterroristes les plus violents et prolifiques au monde pour leur propre profit. C'est ce qu'il leur est en fait reproché là, en mots. Début de l'audience de Maduro et sa femme, c'était très particulier. C'était suivi aussi à travers le monde en entier. Et il y aura assurément des choses qui vont découler encore dans cette journée-ci. C'est loin d'être terminé, même si on n'est plus entre les murs de cette salle d'audience-là.
L'avocat de Nicolas Maduro, Barry Pollack, est le même avocat qui a représenté Julian Assange, donc très habitué à ces grands procès très médiatisés et à ces procès là, sur la scène internationale. Donc, ça va être un dossier à suivre. Excellente chronique de Farnell Morisset ce matin dans Marceau le matin. C'est à réécouter sur le blvd.fm. Également, immédiatement après l'émission, on va déposer le caucus avec Victor Henriquez. Excellent point de vue aussi. Victor, qui est quelqu'un dont sa famille s'est justement sauvée d'une dictature
oui,
au Chili.
Au Chili.
Donc, son point de vue est très, très, très intéressant. Farnell nous le disait ce matin, on va étirer le plus possible aux États-Unis les procédures. Donc, ça ne me surprend pas que c'est au 17 mars la prochaine comparution. On étire ça déjà de 2 mois. Ça va donner le temps justement à Donald Trump là, d'essayer de bien déposer ses assises au pays du Venezuela.
Si je peux me permettre, la Colombie, la Russie, la Chine aussi se sont prononcées à l'ONU. Ce qu'on sait, c'est qu'au Conseil de sécurité, la Colombie, elle a demandé à l'ONU de faire respecter sa propre charte, les règles aussi du droit international. C'est beaucoup là-dessus qu'on se penche là, pour critiquer ce qui s'est passé envers Maduro par rapport au président états-unien qui a pris cette décision de kidnapping, d'accusation du côté de New York. La Russie, elle a déploré de son côté que c'était des crimes cyniques commis à Caracas. On appelle à la libération du président et de sa femme. Moscou a demandé une évaluation impartiale de l'ONU face au néocolonialisme de Washington. Et du côté chinois, bien, on a souligné que les États-Unis avaient notamment violé plusieurs règles du droit international. Alors, on continue là, à enfoncer le clou sur le droit international, dont la souveraineté des États et le règlement pacifique des conflits. On dit qu'aucun pays ne peut prétendre être le juge de tous, c'est ce qu'a déclaré Pékin, et qui a exigé que les États-Unis changent de cap? C'est la question qui se pose. Donc, énormément de critiques quant à la façon de s'y être pris.
Exactement. Comme Victor Henriquez nous le disait, personne ou peu de gens pleurent le départ de Nicolas Maduro présentement du Venezuela. C'était une dictature. Il y a plus de 8 millions de gens depuis Hugo Chavez qui ont quitté le Venezuela, qui se sont sauvés de là et qui souhaitent justement qu'un régime démocratique soit implanté. Ceci dit, la façon que Donald Trump l'a fait, c'est autant Farnell que Victor Henriquez nous le mentionnait, ça crée un chaos au niveau géopolitique à l'heure actuelle et avec les réactions que tu viens de nous lire, ce chaos-là ne fait que s'amplifier.
Puis ce qui est inquiétant là-dedans, c'est qu'assurément, il y a un désir pétrolier derrière tout ça. Quand tu vois la Russie, la Chine qui se prononcent pour aider le Venezuela, bien, c'est qu'il y a assurément des ressources économiques, des ressources naturelles qui sont si convoitées par cette gang-là et qui se bataillent de façon un peu cachée pour tout ce qui est puissance économique depuis des années. Ce n'est pas juste une guerre idéologique et bien au-delà, c'est une guerre économique et de contrôle. Puis on voit un peu les pions se placer puis les gens jouer à risque. Là, moi, je vois un gros tapis de risque devant
nous. Oui, t'as raison.
Il n'y a rien de beau là-dedans. On est tous un peu à cheval sur des actes répréhensibles, violents ou encore de contestation. À suivre comment on va vouloir régler tout ça. Par contre, que la Russie et la Chine, entre autres, mettent de l'avant le droit international comme ça, tape sur le clou, ça peut servir pour la suite des choses.
Ça, t'as tellement raison, notamment dans le plan de paix avec l'Ukraine et notamment pour la Chine qui continue à tourner autour de l'île de Taïwan. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Venezuela a 18 % de la capacité pétrolière mondiale, mais en exploite seulement 1 %. Donc, il reste un 17 % que plusieurs pays aimeraient mettre la main dessus. Puis moi, la grande question que j'aime poser, c'est il faut absolument que le peuple au Venezuela sorte gagnant de ceci. Et là, est-ce qu'on a l'assurance à l'heure actuelle que ça va être le cas? Pas du tout, parce qu'on parle beaucoup plus d'extraction de pétrole que de régime démocratique présentement dans le pays.
Donald Trump a continué aussi de se permettre des envolées lyriques assez impressionnantes, comme celle de réaffirmer son intention de faire passer le Groenland, territoire autonome danois, sous le drapeau américain. Ça a beaucoup fait jaser. On a parlé de la Colombie aussi et tout ça, mais vraiment, le Groenland a un an d'intervalle, donc il y a un an, c'était déjà dans les conversations de Donald Trump et on avait dit « Oh, 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 ça n'a pas arrivé, on espère que ça n'arrivera jamais ». La première ministre danoise s'est prononcée aujourd'hui, on a souligné que l'attaque par les États-Unis d'un pays de l'OTAN serait la fin de tout. On a utilisé ces termes-là. Ce serait la fin de tout si les États-Unis choisissent d'attaquer militairement, là, quand même, un autre pays de l'OTAN. Là, y compris notre OTAN là, qui est défini, y compris la sécurité mise en place depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, serait énormément bousculée. Donc, la chef du gouvernement juge la situation d'assez sérieuse. Là, moi, j'allais dire très sérieuse, mais elle a dit juste sérieuse. Vous comprenez le terme quand même. Et on a affirmé qu'on allait tout faire le possible, là, en son possible pour que ce ne soit pas le cas. On a réagi aussi en disant « ça suffit maintenant, ça suffit maintenant ». L'interventionnisme de Donald Trump en ce qui concerne la situation. Tout le monde trouve qu'on est un petit peu dans une zone trop critique en ce moment.
Il y a de plus en plus une scission qui se fait. Je crois que les États-Unis, l'Union européenne, là, on la voit très bien. Donald Trump qui a négocié un plan de paix pour l'Ukraine qui est repris par les Européens. Mark Carney qui est à Paris et présentement en vol va arriver à Paris là, aux alentours de 21h. Pas pour rien qu'il retourne en Europe. Mark Carney, il veut justement s'assurer d'avoir des alliés avec là, un partenaire comme Donald Trump qui est très imprévisible. Et j'ai bien ri lorsque j'ai lu Charles-Étienne par texto qui nous écrit « Moscou et Pékin qui donnent des leçons sur le droit international, c'est le monde à l'envers. »
C'était mon clin d'œil. Alors, on espère que ça peut servir pour la suite des choses qui prennent position ainsi. En ce qui concerne le Groenland, on s'est aussi prononcé par rapport à la sécurité dans l'Arctique parce que, bon, c'est quelque chose quand même qui est fort évalué en ce moment. Donald Trump a dit qu'il avait besoin du Groenland du point de vue de la sécurité nationale, que le Danemark ne sera pas en mesure de s'en occuper si les États-Unis prennent pas le territoire. Et il a dit qu'il allait s'occuper du Groenland d'environ 2 mois. Donc, parlons du Groenland dans 20 jours. Ce sont ses paroles. D'un autre côté, quand on regarde la puissance militaire ou l'argent qui a été investi en 2025, au niveau du Danemark, c'est 90 milliards de couronnes. C'est 1,2 milliard d'euros qui a été investi à la sécurité dans la région. Et on l'a rappelé encore une fois aujourd'hui pour dire, regardez, nous autres, on ne prend pas ça à la légère.
Donc, ça sera le prochain dossier à suivre sur la scène géopolitique. Une petite dernière nouvelle rapidement, Pascal?
Peut-être une nouvelle près de chez nous cette fois-ci. Donc. La réouverture partielle du massif de Charlevoix, on l'a annoncé il y a quelques heures. Donc, réouverture partielle à partir de demain. C'est des journées test quand même. C'est une approche graduelle pour l'ouverture. Ça s'adresse uniquement aux invités, on les appelle comme ça, qui disposent d'un forfait ski-hébergement. Donc, c'est pour les membres Icon Pass, Mountain Collective, puis à la clientèle du Club Med de Charlevoix. À partir de mercredi, les skieurs qui avaient un billet de saison pourront aussi accéder aux pentes. On va faire ça de façon partielle parce qu'on veut s'assurer que ça soit un bon service quand même pour les prochaines semaines. Mais la grève n'est pas arrêtée, là. La grève n'est pas terminée au moment où l'on se parle.
Exactement, ça va être un dossier à suivre. C'est déjà tout pour nous à l'émission. On en jase le retour de Gravel suivant l'instant même avec Denis Véro et Max Larouche en remplacement d'Audrey Pinchot. Nous, on se retrouve demain matin dans Marceau le matin, Pascal, avec Max. C'est la programmation 100% parlée qui est de retour sur les ondes de boulevard du lundi au vendredi en attendant le meilleur du rock la fin de semaine avec Dan Caron ainsi que Colosse. Pascal, c'est toujours un plaisir de faire de la radio avec toi.
C'est partagé, amusez-vous. On se retrouve demain.
Yes, à demain, guys.